Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ah, j'ai giflé de mots là, c'est incroyable.
On l'a vu en seconde mi-temps quand Nantes a un petit peu accéléré sur le champignon.
Il faut quand même rendre à César les travails le gros travail qui a été mis en place.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Il est 20h03, vous êtes sur RMC. On vous attend déjà au 32-16. On est ensemble jusqu'à minuit comme chaque soir. Vous avez l'habitude. On est avec ce soir Walid Acherchour. Il est de retour.
Salut Nico, salut à tous.
Il va toujours bien?
Oui, ça va bien.
Tranquille?
Toujours. On essaye en tout cas.
Ouais.
Oui.
Ça boite un peu quand même.
Oui, ça boite un peu, mais on est là pour l'after foot.
Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh là là. C'est quelle bien. Dévotion.
Ouais.
Bonsoir Jonathan Macardy.
Salut Nico.
Salut mon petit barbu, ça va? Très joli pull, hein, c'est ouais.
C'est assorti à ton pelage.
C'est pas faux, ouais. Effectivement, ça
un truc. On pourra frotter ta barbe contre.
Ouais, ouais, je me rappelle ma maman quand j'étais petit, prenait dans ses bras.
Ah d'accord.
Ouais. Oh. Ah ouais d'accord. Ah, okay. Ça commence déjà.
D'accord. J'ai vu que tu l'as continué hier.
Ah ouais d'accord.
D'accord.
C'était quand même une blague. On savait que c'est toi qui l'as fait quoi.
Pourquoi? Ah bah oui, moi j'ai le droit. J'ai le droit, j'ai des très beaux pulls à la maison.
Bravo.
Kevin Diaz également est avec nous. Salut Kevin.
Salut à tous.
Quelle jolie chemise.
Ouais, moi j'ai pas de pull.
T'as pas de pull?
Non.
Bah c'est pas grave, tu peux mettre des chemises, il commence à faire bon. Je vous donne le menu de ces deux premières heures. J-1 avant France-Pays-Bas. Première des Bleus depuis le Mondial, vous le savez. Dernières infos de l'équipe de France dans un instant avec Jeannot Rességué. Morceau choisi de la conf de presse de Kylian Mbappé du jour. Sa première en tant que capitaine des Bleus. Vous a-t-il séduit, agacé, inquiété? On attend vos avis sur cette conférence de presse au 32-16, bien entendu. Vous pouvez la revoir, la relire sur le site rmcsport.fr. Avis tranché de Walid également qui concerne l'équipe de France, qui est
La défense centrale, Upamecano, Konaté.
Il faut lui laisser du temps.
Non, il faut laisser du temps à cette défense centrale, non. Et de la continuité.
Ah ouais, d'accord. Et puis les éliminatoires pour l'Euro 2024 qui débutent dès ce soir avec notamment la première de Roberto Martinez avec le Portugal. Cristiano Ronaldo, ça vient de tomber, il est bien titulaire. La sélection du Portugal peut-elle se renouveler avec Ronaldo? Venez aussi nous dire, supporters du Portugal, ce que vous pensez du choix Martinez au poste de sélectionneur. Il y a des sondages qui sont tombés aujourd'hui au Portugal. Il y a des choses assez surprenantes. Hein. On vous expliquera ça dans un instant. Et puis on ira aussi en Argentine qui va rejouer pour la première fois depuis son sacre au Mondial et on sera au Monumental avec le Monumental Georges Quirino Chavez. Et puis à partir de 22h, Nico Jamin sera là. Salut Nico.
Salut Nico, salut à tous. Effectivement, 22h avec Daniel Riolo et Thibaut Leplat jusqu'à minuit comme tous les soirs. On va nous aussi revenir sur la conférence de presse du président de l'équipe de France, Kylian Mbappé. C'est pas un capitaine.
Président. Il a dit je serai capitaine de mon pays.
Ouais.
Thibaut Leplat a fait la remarque tout à l'heure.
Ouais, c'est un lapsus très révélateur.
Ouais.
Vous aimez pas, effectivement, on va faire le débat. C'est un risque quand même parce que ce garçon garde sa spontanéité. On va voir si en grande compétition internationale, ça peut poser des problèmes ou pas. En tout cas, nous, on se régale, qu'on soit spectateur ou journaliste. On parlera de la salle de la descente de l'équipe de France demain soir, les Pays-Bas, qui seront privés de 5 joueurs frappés par un virus, dont Cody Gakpo, qui ne sera pas là. Il est resté aux Pays-Bas. Le débrief Italie-Angleterre. Et puis, tiens, à 23h, nos derniers éléments dans l'affaire Amraoui Diallo, hein, l'influence du fameux César Mavakala. On va parler notamment des nombreux appuis qu'il a eu au PSG. Vous allez voir, petite révélation ce soir avec Daniel pour asseoir son autorité, son influence au club. Et puis, l'avis de Thibaut Leplat ce soir à 23h30 sur l'arbitrage après l'expérience sonorisation du week-end sur le Lyon-Nantes. Il pose la question suivante: est-ce vraiment une bonne idée? Faut-il tout entendre, tout savoir, tout voir, comme pour l'assistance vidéo? Il n'est pas convaincu, lui. C'est un avis qui détonne dans le milieu.
Ouais. Monsieur Caboret, voulez-vous
un soin pour un soin?
Un soin. Il aime bien détonner.
Ouais. Bon. Et il va t'étonner aussi. Très belle chemise, effectivement. Bah, belle chemise, c'est une surchemise.
Ouais, bah, ce que j'allais dire, t'as dû la prêter, non? C'est un truc à toi, ça.
Non, il s'est inspiré de mon style. 4 ans de collaboration, il a.
Bien sûr.
Tu veux dire qu'il a des accointances avec toi aussi?
Oui.
En plus de Modric.
C'est
fou, ce truc-là.
Ah, ouais, d'accord.
Allez,
d'accord. Modric.
Merci, Nico, à tout à l'heure.
Luca.
Les éliminatoires pour l'Euro 2024 qui débutent ce soir. Deux belles affiches, enfin une belle, très belle affiche Italie-Angleterre. Il y a également le Portugal, la rentrée du Portugal dès ce soir. Des matchs qu'on va suivre avec Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Salut.
Est-ce que tu peux nous donner la compo de ce Italie-Angleterre très alléchant, un revival de la finale de l'Euro?
Oui, exactement, revival de la finale de l'Euro 2020. L'Italie se présente en 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma, le gardien du PSG, bien sûr, dans les cages. Spinazzola à gauche, Giovanni Di Lorenzo, le capitaine du Napoli, à droite, et une charnière Toloi à Serbie. Au milieu de terrain, on aura Nicolò Barella, Jorginho et Marco Verratti, capitaine de cette sélection italienne en l'absence de Bonucci. Devant, on aura Berardi sur le côté droit, Pellegrini à gauche, et puis la première sélection pour le jeune Matteo Retegui. l'attaquant des Tigres en Argentine qui est prêté par Boca Junior et qui voilà honore sa première sélection aujourd'hui. Notez qu'il y a pas mal de gros absents, notamment donc Chiesa et Bonucci. En face, côté anglais, également des absents. Sterling qui est blessé, Mason Mount également, tout comme Marcus Rashford. Et du coup, Gareth Southgate aligne une équipe en 4-3-3 également. Pickford dans les cages, Luke Shaw, Maguire, Stones et Walker en défense. Rice, Bellingham et Calvin Phillips titulaire au milieu de terrain. Le milieu de Manchester City qui n'a que 56 minutes en Première Ligue cette saison est titulaire. Et devant, Grealish, Harry Kane et Saka.
Et alors, petite info également concernant le Portugal. Alors, je le disais, Cristiano Ronaldo est bien titulaire. Et alors, c'est pas arrivé. J'étais en train de regarder tout à l'heure en voyant la compo. Il y a notamment un choix tactique.
3-5-2
Ouais, une défense à 3. C'est pas arrivé depuis la première de Scolari avec le Portugal.
2002
d'ailleurs.
Je suis pas sûr que ce soit très rassurant, mais on va voir.
On va en parler du Portugal. Juste donne-nous le 11 de départ du Portugal, s'il te plaît,
bien. Ouais, bien sûr. Le retour de Rui Patricio dans les cages. Défense à 3. Donc, tu l'as dit, Danilo Pereira, Rubén Dias et Gonçalo Inácio, le joueur du Sporting Portugal, Cancelo et Guerreiro sur les côtés, un milieu de terrain Bruno Fernandes, Palinha et Bernardo Silva, et devant João Félix en compagnie donc de Cristiano Ronaldo.
Merci beaucoup Pierre, on vous attend, supporter du Portugal. Est-ce que pour vous le renouveau s'inscrit avec Cristiano Ronaldo? On va en reparler après, dans quelques instants.
On est véritablement surpris, Roberto Martinez aime ce système à 3. C'est comme ça qu'il a managé un petit peu la Belgique sur les dernières années. Donc peut-être qu'il vient avec ses idées. Après, est-ce que ça va fonctionner? On va voir sur le.
Et bon, là, il joue le Liechtenstein et le Luxembourg, les deux.
Oui, voilà,
revenons sur juste deux secondes sur Italie et Angleterre. C'est intéressant de voir Etegui en pointe de la sélection italienne. C'est un joueur qui joue quand même juste en Argentine. Alors, tous les supporters de Boca Juniors vous le diront, ils étaient fous de rage que Boca ne le rapatrie pas pour jouer numéro 9, qu'il soit reprêté. Mais c'est un joueur qui est extrêmement performant en championnat. Mais je vous avoue que c'est surprenant de le voir titulaire.
Il a dit
une sélection comme l'Italie, quoi.
Mancini a dit en gros on racle les fonds tiroirs.
Moi je connais pas du tout.
C'est un avançant puissant, assez mobile, mais c'est vraiment un numéro 9, quoi, tu vois. Mais c'est le profil que l'Italie recherche.
Mais c'est quand même inquiétant que qu'un joueur aussi méconnu.
Mais non, je te dis, Mancini, on a parlé début du rassemblement, annonce de la liste. D'ailleurs, on fera le débat d'ailleurs également tout à l'heure. Verratti a parlé hier en conf de presse, parce que Pierre le disait, il est capitaine. Bonucci est absent, c'est lui qui aurait dû brasser. On vous pose cette question. Est-ce qu'il est un patron pour l'Italie et pour Paris aussi, d'ailleurs, accessoirement? On vous attend en 32-16 pour y répondre.
Patron de la night.
Il a répondu notamment aux critiques dont il a été la cible après cette boulette face au Bayern Munich. Avant cela, messieurs, et avant de vous attendre notamment au 32-16 pour parler du Portugal et de Cristiano Ronaldo, demain France-Pays-Bas. Première sortie des Bleus depuis la finale du Mondial. Ce sera 20h45 au Stade de France et sur RMC avec Jeannot Rességuet. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Salut Jeannot. Alors, quelles sont les dernières petites infos, les dernières petites indiscrétions que tu as concernant les Bleus avant ce match de demain?
Écoute, par rapport à ce qui avait été évoqué hier soir avec les informations d'Arthur Perrault et de Fabrice Hawkins sur la composition de l'équipe de France, il y avait un point d'interrogation sur ce qui s'était passé à Clairefontaine, soit Olivier Giroud, soit Colomouani. Et semble-t-il, sur la mise en place de ce soir, qui dans cette séance à huis clos ici au Stade de France, a débuté après le quart d'heure ouvert aux médias par une grosse séance de coups de pied arrêtés, donc défensif et offensif, eh bien Colomouani était avec les titulaires pour débuter la rencontre demain face aux Pays-Bas, dans le secteur offensif avec le capitaine Mbappé, avec Coman et Griezmann qui sera devant Rabiot et Tchouaméni. Voilà pour l'organisation du milieu de terrain et de l'attaque. Et en défense, la titularisation de Maignan, 6e sélection uniquement, Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche, et donc la charnière qui doit s'installer, Upamecano, Konaté, les deux seront titulaires. Petite alerte pour Konaté à un moment donné dans la séance d'entraînement, mais qui a été alerte levée très rapidement. Donc voilà à quoi va ressembler cette première composition d'équipe de Didier Deschamps post Coupe du Monde, avec ce début de rajeunissement et après les retraites de Lloris, de Mandanda, de Varane ou encore de Benzema.
Merci beaucoup mon Jeannot, merci beaucoup à toi. Les dernières infos donc concernant cette équipe de France, donc Colomouani qui devrait être titulaire demain, on en avait parlé un petit peu hier d'ailleurs, le duel Colomouani-Olivier Giroud. Petite info également concernant la sélection anglaise, alors ils sont touchés par un virus, il y a 5 joueurs qui sont forfaits pour demain.
Hollandaise.
J'ai dit quoi?
Anglaise.
Ouais, c'est pareil. Gakpo, De Ligt, Botman, Verman et Verbruggen sont forfaits pour le match de demain. Il y a quand même du bon monde d'absents.
Après ils ont convoqué quand même du Gravenberch notamment. Donc il y a des joueurs. Maintenant c'est dommage parce que il avait c'était sa première composition, c'était sa première sélection. Forcément il avait envie de faire jouer les joueurs qu'il a sélectionnés. Ouais, Coman. Mais si tu veux savoir, c'est la maladie ou le virus, c'est by grip. Donc, by grip, en gros, c'est la gastro.
Ah, c'est vrai? Voilà. Ah, c'est un faux ami, en fait.
Ouais, c'est ça.
By grip, on dit.
Bike, grip.
Bike, grip. La grip, grip à vélo, quoi.
La grip du ventre.
Ah ouais, ouais. Comment tu dis le ventre?
Bike.
Bike. Ah ouais, ok. Ça va, ça?
Non.
Non, tu le sais. Ouais. On apprend tous les jours, c'est ça l'after.
Ah, d'accord.
Excellent. Et puis, bien entendu, hein, tout à l'heure, hein, 21h, on vous attend au 32-16 pour venir commenter également, avoir vos avis sur la conférence de presse de Kylian Mbappé, sa première en tant que capitaine des Bleus. Voilà, vous venez nous dire ce que vous en avez pensé au 32-16. Et bien sûr, je voudrais vos avis. En attendant, 20h45, premier match de qualif du Portugal pour l'Euro 2024. Le Portugal reçoit le Liechtenstein, supporter du Portugal. On vous attend au 32-16 pour nous dire, est-ce que selon vous, le renouveau du Portugal passe par Cristiano Ronaldo, 38 ans, le Portugal qui a changé de sélectionneur? Et venez nous donner votre avis également sur Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur de la Belgique. Il n'a pas forcément laissé un très bon souvenir. Allez sur le podcast Joga, vous allez comprendre. En Belgique, il n'est pas forcément regretté aujourd'hui. A tout de suite sur RMC avec Walid Achar, sur Jonathan Macardy et Kevin Diaz dans Génération After.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Jonathan Macardy, Kevin Diaz, Walid Achar avec vous également sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio. On vous attend 32-16. On est en direct également sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. C'est Lemuel qui est là ce soir.
Ah, ouais, c'est un fou.
Bah, ils sont tous fous de toute façon sur ce truc-là.
Salut Lemuel, c'est comment la Twitcherie?
Ça se passe, gros.
Ça se passe bien?
Bien sûr.
Ils viennent tous essayer de faire du grappling. Repartent, bah, je sais pas, ils ont envie d'essayer, quoi.
Pourquoi pas?
Ils viennent, je les étrangle, c'est rigolo. Bien marrer. Coucou Sacha, j'espère que tu t'es remis.
À 20h45, dans une demi-heure, même pas d'ailleurs, coup d'envoi du match entre le Portugal et Liechtenstein. Premier match de qualif du Portugal pour l'Euro 2024. Cristiano Ronaldo, 38 ans, nouvel attaquant d'Al Nasser en Arabie Saoudite, est donc titulaire ce soir. Pierre nous avait donné la compo tout à l'heure avec cette défense à 3 derrière lui notamment. Ce soir, Ronaldo va célébrer sa 196e sélection et devenir le joueur le plus capé de l'histoire des sélections nationales. On vous pose cette question. Le renouveau du Portugal, emmené maintenant par Roberto Martinez, peut-il se faire avec Cristiano Ronaldo? On vous attend au 32-16. Juste avant d'avoir vos avis à tous les trois, les gars, il avait une fin de Coupe du Monde un peu compliquée, Cristiano Ronaldo, avec Fernando Santos notamment. Hier, il était en conférence de presse puisqu'il est capitaine du Portugal. Et la question lui a été posée, est-ce qu'il a songé à mettre un terme à sa carrière internationale, Cristiano Ronaldo?
Pensamos, refletimos, teve bastante tempo para pensar.
Je ne vais pas mentir. Dans la vie, il faut savoir tout mettre dans la balance. On a pris le temps de penser, réfléchir, moi et ma famille. On est arrivé à la conclusion que malgré les difficultés, il ne faut pas jeter l'éponge. Je suis très heureux de revenir en sélection. Mon sélectionneur comptait sur moi et je le remercie pour ça, parce que j'ai toujours voulu jouer pour la sélection. Comme vous le savez, il y a eu une conversation avec tous les joueurs, y compris avec moi. J'ai réussi à comprendre qu'en fin de compte, j'ai encore beaucoup à donner à la sélection. Mon plus grand souhait est d'emmener le Portugal le plus haut possible, comme toujours. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même, tant qu'on aura besoin de moi.
Le renouveau du Portugal passe-t-il par Cristiano Ronaldo? Kevin Diaz, t'en dis quoi, toi?
Non. Non, non, je pense pas que le renouveau du Portugal passe par Cristiano Ronaldo. Maintenant, moi, je suis pas contre l'idée de le sélectionner, voir comment il va jouer. Bon, là, le Liechtenstein, ça va le faire, je pense, mais voir comment il va jouer et puis pour lui permettre de battre ce record, peut-être de jouer son dernier match dans les prochains mois au Portugal, au Stade da Luz, ou encore mieux au Stade José Alvalade du Sporting. Mais après, bien sûr que non. Bien sûr que le Portugal doit construire sans Cristiano Ronaldo. Ça avait déjà été le cas à la fin de la Coupe du Monde et aujourd'hui de voir que Gonçalo Ramos est sur le banc, non, moi ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que c'est un joueur qui doit représenter l'avenir du Portugal, notamment avec les résultats exceptionnels qu'a le Benfica Lisbonne depuis le début de la saison.
Moi je dirais que c'est au-delà des résultats.
Ouais.
Depuis le temps qu'on réclame du jeu dans le Portugal, ouais, dans l'équipe du Portugal, il pourrait faire une ossature. Antonio Silva, Florentino Luiz, Jean Mario qui fait la saison de sa vie, ouais, les meilleurs buteurs, et Gonçalo Ramos, il a même pas pris Florentino Luiz par exemple.
Moi j'ai toujours été fan de Florentino Luiz, même si j'étais assez déçu de voir que son passage à l'AS Monaco, les gens s'en rappellent pas, mais il a joué quelques mois à l'AS Monaco, si, ouais, n'avait pas été fructueux. Mais bon, voilà, moi je pense qu'en effet, il fallait s'appuyer sur l'ossature du Benfica avec les joueurs de Porto aussi, notamment le gardien Diogo Costa qui va revenir, j'espère, très rapidement dans le but de la sélection portugaise, même s'il a fait deux trois erreurs, ça arrive, c'est un jeune gardien. Avec en plus des joueurs comme Nuno Mendes du Sporting, je pense que là, dans les trois gros clubs, il y a ce qu'il faut pour que la sélection puisse s'en appuyer, et avec aussi bien sûr les internationaux ou les joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens comme Cancelo, etc.
Moi Nico, je trouve déjà étonnant de poser la question, En fait, bien évidemment, Cristiano Ronaldo.
Hier, la question a été posée et à Roberto Martinez et à Ronaldo. Et en gros, Ronaldo l'avait dit avant la Coupe du Monde, moi je veux aller à l'Euro. Donc en gros, c'est lui qui décide. Et Roberto Martinez a expliqué qu'il était là, qu'effectivement, comme tous les joueurs, il l'avait vu, il avait discuté avec lui, et qu'il était là pour faire une sorte de passation de pouvoir, aider les jeunes, etc. aussi.
Bah, pourquoi pas, mais avec tout le respect qu'on doit avoir pour un joueur de la trempe de Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, on ne peut pas mettre renouveau dans la même phrase qu'un joueur qui a 38 ans. Surtout après ce qui s'est passé sur les dernières compétitions internationales avec le Portugal. Alors on va être attentif. Moi je vais être attentif, comme l'a dit à juste titre Kevin, sur le prochain rassemblement, parce que peut-être que ce rassemblement là est plus symbolique par rapport au fait que il aille chercher cette record, la même chose, pouvoir célébrer Cristiano Ronaldo une dernière fois. Sur ça, je peux totalement le comprendre. Par contre, s'il continue à se baser sur Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez, pour moi, ce serait une grosse déception, parce que post Fernando Santos, je pense que le Portugal aurait dû mettre un terme à l'histoire de Cristiano Ronaldo. Et si Roberto Martinez ne le fait pas, si Roberto Martinez nous explique que c'est avec Cristiano Ronaldo, parce qu'on sait très très bien qu'aujourd'hui, Ronaldo, est-ce que quand il est dans le groupe, est-ce que il peut aller s'asseoir sur le banc, est-ce que il peut aujourd'hui couver un Gonzalo Ramos qui est extraordinaire avec le Benfica cette saison. On a encore vu ses matchs contre Bruges, on a encore vu ses matchs au Portugal en championnat, ou même sa Coupe du Monde où c'était étincelant sur les dernières rencontres notamment. Donc moi je pense que un joueur de la stature de Cristiano Ronaldo, c'est soit il est titulaire.
Mais, mais moi je vais te dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais Ronaldo aujourd'hui il est dans les 23, il prend la place de personne. Hein.
Oui.
Il y a aucun joueur aujourd'hui, tu dis, ah, il a pris Ronaldo, il aurait pu prendre un tel dans les 23.
Non, d'accord. Mais tu sais très bien que si tu le prends, ça pose un problème, puisqu'il a un statut, forcément, par sa carrure, son charisme et sa légende, de titulaire.
Non, mais alors, moi, je suis d'accord avec vous deux, mais je pense que vous raisonnez sur la rationalité footballistique, ce qui est le plus logique. Oui. Mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte d'autres facteurs. Moi, personnellement, j'ai perdu tout respect pour Cristiano Ronaldo à partir du moment où il a décidé d'aller jouer en Arabie Saoudite. Mais, ce qui s'est, parce que moi, je peux comprendre une chose, c'est que tu l'as dit, le nouveau sélectionneur arrive, il a pas forcément tout le soutien populaire encore derrière lui, et je pense que en termes de popularité et d'impact médiatique et même d'impact populaire d'une décision qui aurait été de ne pas prendre Cristiano, peut-être que ça aurait été commencer par se tirer un petit peu un coup dans le pied et ne pas céder. Je pense qu'il le prend aussi peut-être un petit peu par démagogie. Je pense que Nico, tu peux nous dire ça, et que c'est un choix qui va lui permettre.
Mais c'est un politicien, Martinez, demande au Bess.
Oui, mais jusqu'où le choix politique?
Jusqu'au moment où Ronaldo, par exemple, sera moins performant. Parce que attendez, il a 9 buts en 10 matchs avec Al Nasser. Il a marqué 9 buts, mais il a marqué que sur 4 matchs, par exemple. Il a mis un quadruplé, il a mis 2 doublés, et voilà.
Mais à partir du moment où Ronaldo a 38 ans, comment ça s'est terminé sur la Coupe du Monde, où quand même on a eu Fernando Santos qui a fait un choix fort sur le 8e de finale contre la Suisse, où il a mis Gonzalo Ramos, 21 ans, qui représente l'avenir du Portugal. On sait très bien comment ça s'est terminé. Ronaldo a fait un choix sportif, enfin un choix financier, mais un choix d'aller de...
Mais c'est comme dit Jonathan, le problème c'est que Ronaldo, et je pense que la Fédé est c'est pas inintéressant d'aller chercher un étranger parce qu'il a peut-être moins de pression, tu vois, extérieure, je sais pas, populaire ou quoi que ce soit. Mais le fait est que t'arrives, Ronaldo au Portugal, tu le dégages du jour au lendemain.
Il y a deux choses de toute façon.
C'est compliqué politiquement.
Mais même du côté de Ronaldo, parce qu'on n'a pas parlé du côté de Ronaldo. Bon, il y en a qui
veulent pas.
Il
sera pas parti. Regarde avec Manchester United comment c'est terminé.
Il y en a qui veulent pas l'entendre et qui ne veulent pas le comprendre. De toute façon, on peut pas se mettre à la place d'un joueur aussi fort et avec un, comment dire, parce qu'il a un ego. Il a bien évidemment tous ces champions ont des gros égaux. Maintenant, le gros problème, c'est que même lui, Cristiano Ronaldo, c'était quand même la belle. Il y avait une belle fenêtre pour terminer entre guillemets sa carrière en sélection. Et s'il le fait pas post célébration entre guillemets, là, il va mettre ses buts contre Liechtenstein ou contre le Luxembourg. Il aura battu le record de sélection, etc. Normalement, même lui, il devrait se dire, oui. Bon les gars,
non mais je
fais ce que j'avais à faire.
Je suis d'accord là-dessus. Pour moi, ça devrait venir de Cristiano Ronaldo, et Cristiano Ronaldo devrait libérer le Portugal.
Mais il est pas comme ça. Mais vous avez bien compris que c'était ça ce qu'attendait Martinez. C'est pas lui qui va faire le choix.
On est d'accord. Donc
pourquoi?
Donc là, c'est ce qu'on aurait pu attendre de Cristiano Ronaldo. Mais on l'a vu malheureusement avec Manchester United, il n'a pas la lucidité pour savoir quand est-ce et comment partir. Mais ça, on peut pas lui reprocher. Voilà, c'est jamais facile.
C'est ce qui a fait sa force en fait. C'est son caractère.
C'est ce qui a fait sa force et de toute façon, ça fait partie des légendes comme lui. Maintenant,
après les légendes, ils savent aussi, ils peuvent à un moment donné. Pas toutes, mais il y en a certains.
Mais le truc, c'est que j'espère quand même que Roberto Martinez a eu quand même un discours clair et franc avec Cristiano Ronaldo en lui disant écoute Cristiano, tu es une légende, ça va être difficile pour moi de toute façon de te demander d'arrêter, parce que je pense que même physiquement, comme l'a dit Nico fort justement, tu as encore peut-être ta place comme attaquant dans le groupe des meilleurs joueurs portugais, ou en tout cas dans les 23, puisque le poste d'avant-centre ça reste quand même un souci. Mais attention, si t'es dans les prochaines semaines je dois te mettre sur le banc, ou si je dois ne pas te convoquer parce que il y a des joueurs qui dans les prochains mois montrent qu'ils ont le niveau en vue de ton statut, je te prendrai comment peut-être ça, pas pour être le 23e joueur de l'effectif. Nico. Et là, il faudra que toi et moi, on ait une conversation mais pour que tu sortes.
Tu crois comment les gars, comment c'était passé avec Fernando Santos quand il l'écarte en 8e de finale
super. Alors, genou. En fait, il y a eu un élément déclencheur à la Coupe du Monde, c'est le match contre la Corée du Sud, dernier match de poule. Il le sort et Ronaldo, il y a gros plan sur lui et il balance une insulte. Tout le monde voit l'insulte, sauf Santos qui est focus sur son match. En conf de presse, on lui dit bah, vous avez vu Ronaldo, quand vous l'avez demandé de sortir, il a balancé une insulte qui vous a été dirigée. T'es pressé de me faire sortir. Il dit bon caray, ok, une onomatopée un peu insultante en portugais. Mais c'était pas moi qui parlais, c'était un joueur de la Corée du Sud. Et le lendemain, enfin la conf qui a suivi deux jours après, Santos a revu les images et il dit, et ça c'est un truc, ça fait l'effet d'une bombe au Portugal, c'est la première fois qu'il le déjugeait. Et il dit, bah vous savez quoi, j'ai revu les images, et effectivement c'est de moi qui parlais. Donc j'ai eu une conversation avec lui, je lui dis que c'est pas parce qu'il était capitaine qu'en gros il faisait ce qu'il voulait, et match qu'a suivi, sur le banc. Et là,
Cristiano l'avait pris comment?
Mais très mal. Il a mis des tirs à Santos hier en conférence de presse. Hein. Première intervention.
Et puis même son entourage.
Maintenant, il y a un air frais, les choses ont changé. Il y a des nouvelles.
Même son entourage pour les réseaux.
Non, mais ça veut dire une chose. Ça veut dire une chose qui illustre bien donc ce que Kevin disait, c'est que ça va être très compliqué. S'il y a la conversation à laquelle je faisais allusion, ça va être très compliqué de faire en sorte que Cristiano accepte ce rôle de chaperon qui pourrait être excellent pour Ramos. Malheureusement, je pense que l'avenir de Roberto Martinez à la tête de la sélection et sa réussite ou pas, c'est étroitement lié à la manière dont tu vas arriver à gérer cette épine dans le pied.
Les gars, on marque une pause, on revient dans un instant. Il y a beaucoup d'appels au 32-16 sur ce sujet. On sera avec Emmanuel et Philippe notamment. Je vous donnerai les résultats d'un sondage également qui a été commandé par plusieurs quotidiens et une radio nationale également portugaise qui concerne et Cristiano Ronaldo et Roberto Martinez. On revient dans un instant avec Kevin Diaz, avec Jonathan McCarty, avec Walid Acharchour dans Génération After.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Kevin Diaz, Walid Acharchour, Jonathan McCarty avec vous au 32-16 également. Il est 20h31, vous êtes sur RMC à 20h45. Coup d'envoi du match entre le Portugal et Liechtenstein, également Angleterre-Italie. Pierre Thévenet nous tiendra au courant de ces résultats. Premier match de qualification pour l'Euro 2024 et on vous pose cette question. Le renouveau du Portugal, emmené maintenant par Roberto Martinez, peut-il se faire avec Cristiano Ronaldo? Avant d'accueillir, il y a pas mal d'auditeurs qui nous appelaient au 32-16. Petit résultat d'un sondage qui a été publié aujourd'hui au Portugal, sondage Aximage, commandé par les quotidiens généralistes JNDN et la radio TSF. Pour 48% des sondés, Ronaldo a encore les conditions pour être titulaire en sélection. 29% disent non, 11% disent il ne devrait même plus être convoqué et 12% ne se prononcent pas.
Et moi je trouve ça dingue parce qu'il y avait les mêmes sondages avant et après.
Mais c'est même plus positif maintenant qu'avant la Coupe du Monde.
Exactement. Alors qu'il était à Manchester United et que.
Mais Wally, tu sais que je pense que les gens au Portugal et Nico est le mieux placé pour nous le témoigner, mais les gens au Portugal sont quand même dans une relation un peu irrationnelle. C'est une histoire d'amour avec Cristiano.
Oui, justement.
Avec des aéroports, des musées, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre.
Justement. Non,
mais ce que je veux dire, c'est que si, à mon avis, il est aligné titulaire et qu'il fait deux matchs de merde, tu refais le même sondage, ça peut être drastiquement différent, Nico.
Non, mais parce qu'en fait, Jonathan, aujourd'hui dans le football.
Mais c'était il y a si longtemps, les gens ont la mémoire courte.
Aujourd'hui, Jonathan, dans le football de sélection,
il y en a
combien de matchs qui comptent en vérité par an? Un et encore.
Mais toi, t'es. Non, pas au Portugal.
Mais même pas.
Au Portugal, chaque match de la sélection, même contre le Liechtenstein, je te le dis,
clubs,
à partir du moment où c'est à domicile, à partir du moment où c'est à l'extérieur, c'est-à-dire que. Non, mais je te le dis, le pays s'arrête.
Ok, très bien.
Ça, c'est un pays de football.
Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, qui est à Al Nassr, il est capable de mettre des buts contre Liechtenstein et c'est quoi le deuxième match?
Luxembourg.
Et contre, Luxembourg. Donc en fait.
Il a jamais marqué contre le Liechtenstein.
Non, mais donc en fait, Cristiano Ronaldo met deux buts contre Luxembourg ou contre Liechtenstein.
C'est pour ça que je te dis qu'il aurait dû libérer le Portugal.
Non, mais qui continue à être performant à Al Nasser. En fait, le problème, il va reculer contre le Portugal.
Il y a beaucoup d'appels, les gars.
Il y a beaucoup d'appels. Il continuera d'être là.
Il y a plus d'appels que de temps, sachez-le. Emmanuel nous a appelé, supporter du Portugal. Salut, Emmanuel.
Salut, Emmanuel.
Bonne nuit.
Bienvenue dans
le Portugal.
Alpha.
Salut Manu. Voilà, Radio Alpha, Joga.
On voit que c'est Nico qui présente d'ailleurs tous ceux qui. D'ailleurs, très très bonne interview. Écoutez de Lucho González, qu'on a fait dans Joga. Voilà, et qui nous parle de Porto, du Portugal, de Marseille.
De Marseille, évidemment.
Bien sûr. Alors, Emmanuel, tu réponds quoi, toi, à cette question? Est-ce que le renouveau du Portugal peut passer par Ronaldo?
Ça me fend le cœur. Mais non. En tant que fervent supporter de cette sélection et de Ronaldo, et aujourd'hui, il faut dire que non. La page est tournée, la page doit se tourner. On a un nouveau sélectionneur qui doit amener quelque chose de nouveau. Et le nouveau n'est pas, ne passe pas par Cristiano Ronaldo, comme ne passe pas par Pepe aussi. Donc non, ça me fend le cœur. Mais aujourd'hui, il faut qu'on tourne la page. Il faut qu'on aille chercher des nouveaux joueurs, des nouveaux talents.
Après, il y a une différence entre Pep et Ronaldo, Emmanuel, quand même. Hein.
Quelle est la différence?
Pep, il est titulaire en Ligue des Champions quand il est dispo physiquement. Là, en l'occurrence, il est blessé ce soir, par exemple. Mais c'est peut-être le défenseur le plus régulier, y compris du Portugal, ces derniers temps.
Je suis d'accord, mais dans un an et demi, comment sera Pep au niveau condition physique? Si on se projette sur un plan moyen terme, avec la préparation de l'Euro puis de la Coupe du Monde, on ne peut pas compter sur Pep. Avec tout le respect que tous les Portugais ont pour Pep ou CR7, aujourd'hui, on doit se focaliser sur l'avenir, et l'avenir, malheureusement, c'est pas Christian et c'est pas Pep.
Et puis il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération qui doit s'affirmer. Au-delà même de la nouvelle génération.
Vous croyez pas à la passation de pouvoir, vous? Avoir un Pep et un Ronaldo pour un jeune défenseur et un jeune
attaquant? Ronaldo a déjà montré que sa personnalité et sa manière d'être capable d'être réaliste sur son déclin, il n'avait pas cette capacité.
Et puis il y a un moment.
C'est compliqué.
Il y a un moment dans un groupe. Et ça, on l'a tous connu dans un groupe. Il y a des personnalités qui inhibent. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où Cristiano Ronaldo ou Pep qui est irréprochable.
Mais oui.
Mais il y a un moment, il faut laisser la place, ne serait-ce que pour préparer peut-être.
Mais qui vous dit que Pep à 40 piges, il va pas être encore performant?
Non, mais attends. Non, mais c'est pas la question d'être performant.
Mais si, c'est la question, enfin.
Il y a un moment.
C'est quoi ce
qu'on voit?
Mais c'est ce que je viens de te dire. C'est le meilleur défenseur du Portugal à la Coupe du Monde.
Nico.
Déjà, le débat, c'est sur Ronaldo, déjà.
Pour le coup, des défenseurs portugais, il y en a qui sont bons. Aujourd'hui, Danilo Pereira, il est très bon.
Gonçalo
Inácio, Ruben Dias.
Antonio Silva.
Enfin bref, il y a des défenseurs. Donc, à partir du moment où tu as, comme a dit notre auditeur.
Ok, vas-y, et derrière, t'as qui?
Tu peux me laisser finir?
Non, mais derrière, t'as
qui? À partir du moment où tu as clairement la préparation d'un euro, mais aussi d'une Coupe du Monde qui arrive, il y a un moment, c'est comme les essais libres. C'est comme les essais libres en Formule 1.
Le Portugal est en galère de centraux.
Il faut préparer.
Aujourd'hui, le Portugal est en galère de centraux comme il est en galère d'avant-centre, les gars.
Pourquoi vous mélangez le cas Pep et
c'est ce que je te dis, pour moi, c'est deux cas différents.
Ça n'a rien à voir. Il a raison. Il a été bon. C'est toujours la faute de Lemuel. Il a été bon la Coupe du Monde en termes de prestation. Pour moi, c'est deux cas qu'on doit différencier. Maintenant, Ronaldo n'a pas été bon lors de la Coupe du Monde. Donc, c'est totalement logique d'avoir des questions. C'est vrai, maintenant je me rappelle des matchs, il a sa place là.
Non, mais le truc qui le rejoint, c'est l'état physique, les blessures.
Mais c'est pas le même poste.
Mais aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'il arrive, restons sur Ronaldo. Quoi qu'il arrive, Roberto Martinez devait apporter une cassure. Aujourd'hui, il devait, par rapport à Fernando Santos.
Il
n'y
a que deux nouveaux joueurs dans sa liste. C'est Diogo Dalot qui n'est même pas dans la feuille de match sort et Inacio qui
est là. Fernando Santos est là.
Oui, mais il était déjà là avant.
Fernando Santos était là depuis combien de temps? 2015?
Premier match, ça devait être c'était au Stade de France, on
y était 2014-2015.
2013, un truc comme ça.
Oui, voilà. Donc, ou juste un peu avant. Quand il y a un sélectionneur qui a passé autant de temps sur le banc du Portugal, quand il y a un autre qui arrive, on s'attend à quelque chose, à du renouveau. Et quand toi tu poses la question, Nico, est-ce que le renouveau passe par des mecs qui vont avoir 40 ans dans un an et demi, voire 42 ans dans 4 ans? Moi, je suis désolé, mais tout à l'heure, il parlait des joueurs qui pouvaient être inhibés. Mais que ce soit les nouveaux joueurs comme Gonçalo Ramos ou même Antonio Silva qui au Benfica peut jouer avec un Ruben Dias notamment en défense centrale en leur laissant du temps,
mais
etc.
C'est pas la même chose parce que c'est pas aussi les mêmes. Attends, le voyez, tu parles d'être inhibé. Ça n'est pas les mêmes personnalités.
J'entends, laisse-moi terminer.
Tu fais un tunnel là, je te dis. Laisse-moi rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant justement. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Tu parles de jeunes joueurs qui pourraient être inhibés et que ça pourrait empêcher leur intégration. C'est pour moi, c'est le point central de notre discussion parce qu'on parle d'un nouveau cycle qui est entamé.
Vas-y, il y a beaucoup d'appels, les gars.
Je pense sincèrement que le cas de Pep est très différent dans la mesure où je le sens plus capable. Nico, tu confirmeras ou pas, de laisser sa place et d'aller chaperonner les jeunes.
Pourquoi pas? Mais je dis si au-delà des jeunes, moi je parle aussi des leaders.
Si il est là, il va jouer.
Moi je parle surtout des leaders, pas des jeunes joueurs comme Ramos, comme Antonio Silva, même des Bernardo Silva, des Bruno Fernandes, des Ruben Dias qui sont là depuis un bon nombre d'années. C'est ces mecs là qui maintenant doivent contrôler la sélection.
Oui, mais le fait est, mon Walid, que quand Ronaldo n'a pas été là, il y a aucun de ces mecs qui a réussi à prendre le lead.
Oui, peut-être parce qu'il y avait toujours son nombre. Quoi qu'il arrive, même quand il n'était pas là, il était là.
Parce qu'aucun des sélectionneurs n'a laissé quelqu'un d'autre prendre la place. Regardez le rôle de Bruno Fernandes dans la sélection. Il est jamais bon quand Ronaldo est là.
Non, mais c'est vrai, il y a une forme d'inhibition. Non, c'est vrai.
Oui,
c'est vrai.
Oui.
Est-ce que c'est de l'inhibition ou c'est simplement un problème tactique?
Ronaldo ne saura pas rester sur le banc et amener l'équipe vers le haut parce que Ronaldo a besoin d'être titulaire, a besoin de battre des records. Et c'est une machine à records. On est d'accord, il va battre son record encore.
De toute façon,
ce soir.
C'est simple. Il faut arrêter avec Cristiano Ronaldo. Point terminé. On peut en discuter toute la soirée. Ils vont gagner des matchs. Il va même marquer des buts. C'est pas le souci. Le Portugal aujourd'hui doit préparer l'après Ronaldo. Malheureusement, ça aurait pu venir de lui, mais ça ne viendra pas de lui. Donc, il faudra que ça vienne du sélectionneur.
Je pense pas que ça peut se faire en douceur. Que là, justement.
J'aurais aimé. Attends, j'aurais aimé.
Je sais pas.
On va voir. Manu, merci d'avoir été avec nous. Merci, Manu.
Les gars, oui, pour finir. La surprise ce soir, pour finir. Dernier match de Ronaldo ce soir. Je vous l'annonce, les gars.
Pourquoi?
Parce que ce soir, c'est Al-Valad.
C'est possible.
Oui, c'est chez lui, il est Formo Sporting. Ouais, okay.
Ça, ce serait beau, tu vois, qu'ils prennent le micro après pour dire merci.
Oui, mais j'ai pas le sentiment qu'il veut arrêter. Hein.
Alors, merci Manu de nous avoir appelé au 32-16. On accueille Philippe, qui lui aussi nous a appelé pour parler du cas Ronaldo. Salut Philippe.
Salut, bonsoir à tous.
Comment ça va, mon
Philippe? Salut Philippe.
Ben ça va, et vous-même?
Bah écoute, ça roule, on est là. On a 5 minutes du coup d'envoi de ce Portugal-Liechtenstein. J'imagine que t'es en stress.
écoute, on prend les mêmes et on recommence, quoi. C'est pas possible. On peut pas, le renouveau ne peut pas passer par Cristiano Ronaldo. C'est pas possible. On n'en peut plus de ce mec, vraiment. Moi, pour ma part, c'est juste plus possible. Il faut passer la passation à quelqu'un d'autre. Il faut arrêter de l'appeler parce que tant qu'il sera appelé, il ne tirera jamais le banc. C'est sûr et certain. Donc là c'est plus possible et puis voilà, on prend un sélectionneur qui reprend les mêmes joueurs, il y a aucune nouveauté, il arrive à me laisser un Florentino Luis qui est le meilleur récupérateur de ballon de la Ligue des Champions dehors, ça il faudra m'expliquer, et le meilleur buteur du Portugal actuellement, Gonçalo Ramos, qui tire le banc aussi, il a laissé la Belgique dans une situation assez catastrophique. Et j'ai l'impression que le Portugal, on s'y dirige, mais droit, mais voilà. Donc ça me fait extrêmement peur. On reprend les mêmes et on recommence et on fait toujours les mêmes bêtises. C'est affolant, vraiment.
Eh bien écoute, on sent ta déception, Philippe.
Avec
merci d'avoir été avec nous, Philippe.
Avec un vivier merci, de Philippe. Très grande qualité, encore une fois.
Bon match, Philippe.
Merci en tout cas, bonne soirée.
À très vite, Philippe. On poursuit le débat dans quelques instants. Et je sais que tu voulais parler de Roberto Martinez.
Oui, parce que
je vais vous donner le résultat du fameux sondage dont je vous parlais tout à l'heure concernant Martinez. C'est assez fou. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça, c'est du teasing. Et on sera avec Arnaud également, qui lui va nous dire arrêtons le Ronaldo bashing. Il va nous expliquer pourquoi. Au 32-16, on vous attend avec Kevin Diaz, avec Olivier Dachour, avec Jonathan Macardy. Au 32-16 dans Génération After. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Et avec vous également au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio, sur la chaîne RMC Sport, la chaîne Twitch d'RMC Sport, bien entendu. On est avec Kevin Diaz, Jonathan Macardy, Walid Acharchour. Coup d'envoi imminent entre l'Angleterre et l'Italie, entre le Portugal et le Liechtenstein. On suit ça avec Pierre Thévenet. Ça va bientôt partir, hein, Pierre.
Ouais, ça va bientôt partir à Naples, au stade Diego Maradona, pour ce match entre l'Italie et l'Angleterre. Tu l'as dit tout à l'heure, le remake de la finale de l'Euro 2020 que les Italiens avaient gagné au tir au but. À noter que c'est le match dans lequel Harry Kane peut devenir le seul meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise. Ça vient de démarrer à l'instant, toujours 0-0 bien sûr entre l'Italie et l'Angleterre.
Et on rappelle du côté du Portugal, Cristiano Ronaldo est titulaire avec une défense à 3, hein, c'est ça, hein, Pierre, hein.
Défense à 3 avec Cristiano Ronaldo de retour à la pointe de l'attaque. Il avait été écarté pour les derniers matchs de la Coupe du Monde. Il est de retour avec le nouveau coach Roberto Martinez. C'est parti également à Lisbonne.
Et on poursuit le débat donc concernant Cristiano Ronaldo, le renouveau du Portugal avec son nouveau sélectionneur Roberto Martinez. Peut-il se faire ou pas avec Cristiano Ronaldo? On va dire un mot également sur Roberto Martinez, le nouveau sélectionneur. Et on accueille avant cela Arnaud qui nous a appelé. Salut Arnaud.
Salut à tous.
Salut Arnaud.
Alors Arnaud, toi tu voulais réagir à ce qui était en train d'être dit ici concernant le cas Cristiano Ronaldo. Toi tu dis arrêtons le Ronaldo bashing.
Ouais, je vous trouve un peu dur, mais c'est peut-être moi qui suis trop naïf, hein, mais je vous trouve un peu dur parce que si on met de côté le fait qu'ils ne doivent pas gêner l'éclosion des futurs bons joueurs, si on considère qu'en fait il y a un deal passé avec Martinez pour le fait qu'il encadre les nouveaux, moi je trouve qu'on
ça fait beaucoup de si quand même.
C'est vrai que ça fait deux si importants. Et je trouve quand même qu'on est les premiers à regretter le manque d'engagement pour l'équipe nationale de certains joueurs. Moi, je pense que dans ce sens-là, c'est un modèle. Je trouve aussi que dans d'autres exemples, on se pose moins de questions. Giroud, il est à peine plus jeune que lui, hein, et on trouve tout à fait normal que Giroud joue encore.
Mais il est performant.
Il est performant, mais d'un autre côté, vous savez bien qu'il y a un problème de salaire pour Cristiano Ronaldo qui l'empêcherait d'être aujourd'hui peut-être dans un grand club européen.
Non, mais je te parle performant en sélection. Tu parles de Giroud qui, même s'il a loupé sa finale de Coupe du Monde, a eu un apport positif pour sa sélection lors de la Coupe du Monde, alors que Ronaldo, c'est plutôt l'inverse. Et Giroud n'a pas la personnalité aussi envahissante que peut avoir un Cristiano Ronaldo. Walid soulignait le point important qui était l'inhibition sur les jeunes talents qui sont en train d'émerger au Portugal. Je pense que la comparaison que tu fais est un peu tirée par les cheveux, si je peux me permettre.
J'accepte complètement qu'on soit pas d'accord et je suis pas certain d'avoir raison, mais je pense quand même qu'avoir quelqu'un comme lui, ça peut être un plus si c'est bien exploité par Martinez.
Oui, mais attends, c'est intéressant ce que tu dis.
On est un peu radical.
En fait, tu dis exactement comme Kevin, Walid, Nico et moi avons dit, c'est que ça pourrait être un plus s'il avait un autre caractère et un autre comportement, mais on sait très bien qu'on ne le refera jamais et qu'il n'acceptera pas de se mettre sur le banc et d'être ce tuteur pour la jeune génération. Donc, finalement, es-tu d'accord, c'est bien.
Sauf si c'est dealé avec Martinez. Probablement que Martinez lui a dit, écoute, je veux bien que tu fasses la transition et que tu sois encore un peu avec nous. Par contre,
elle est titulaire.
Oui, mais peut-être que c'est peut-être parce que sportivement. Il a prouvé qu'on pouvait compter sur lui.
Mais il n'est pas meilleur que Ramos sportivement cette saison.
Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est un peu étonnant.
C'est ça, en fait, le problème, c'est que il y a pas de bashing sur Ronaldo. On est sur une réalité. Le foot, c'est peut-être cruel et on l'a répété à plusieurs reprises avec Kevin et avec Joe depuis tout à l'heure. Ronaldo est une légende, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais aujourd'hui, tu as eu les trois dernières compétitions avec Cristiano Ronaldo du Portugal. Je rappelle que la dernière, tu t'es fait éliminer en quart de finale contre le Maroc où individuellement, Cristiano Ronaldo n'a pas été bon sur cette Coupe du Monde. Tout le monde est là pour le dire. Tout le monde a allumé sa télé, tout le monde l'a vu. Il est même sorti en huitième de finale de Coupe du Monde en plus de ses performances individuelles. Il a eu un mauvais comportement envers son sélectionneur sur la compétition d'avant. Il sort contre la Belgique en huitième de finale à l'Euro. Sur la compétition d'avant, il sort en huitième contre l'Uruguay. Il y a une nouvelle génération qui doit s'affirmer avec un nouveau sélectionneur. On dit juste que Cristiano Ronaldo, que ce soit de lui-même ou le nouveau sélectionneur qui est arrivé, ce n'est pas normal de continuer sur 2 ans avec lui. Alors on va être attentif, et c'est ce qu'on a dit. Si après ce rassemblement-là, les célébrations, etc., tout ce que ça peut comporter, parce qu'il a tellement donné au Portugal que le Portugal doit lui rendre, on va voir ce qui va se passer. On va être attentif. Mais si Ronaldo continue sur 2 ans et qu'on a un sélectionneur qui le fait passer, parce que ça c'est la cerise sur le gâteau, s'il le fait passer devant un mec qui aujourd'hui et je pense moi dans la discussion des 5-6 meilleurs numéro 9 en Europe, en la personne de Gonzalo Ramos qui a 21 ans, ce serait quand même très grave. On est juste là pour le dire, il n'y a aucun bashing, aucune amertume.
5-6, t'exagères pas un peu là sur Ramos?
Ah bah, je te
il
dis
est très fort, hein.
En termes de forme actuelle, Gonzalo Ramos c'est assez extraordinaire en ce moment. Je peux t'accorder le top 10 si tu veux. Ouais. Si tu veux, on peut se rejoindre et se serrer la main.
Je discute pas la sportivité et je suis très surpris qu'il soit titulaire. Ce qui aurait été très fort, c'est qu'il soit remplaçant dans ce groupe-là. Je pense que, mais dans ces cas-là, c'est Martinez le problème.
Arnaud,
merci d'avoir été avec nous.
Salut Arnaud.
Merci à vous.
Ciao.
Merci.
Arnaud, à bientôt. Vas-y,
Kevin, pardon. Non, je disais, c'est pas que Martinez le problème. Et il faut que Arnaud et certains supporters du Portugal ou de Cristiano Ronaldo se rendent bien compte
que les supporters du PSG, hein.
Qu'au final, tu as toujours une date de péremption quand t'es un joueur et que tu sois une légende ou pas. On en parle certaines fois sur Messi ou Sergio Ramos en fonction des contextes. Mais il y a un moment, tu ne peux pas te dire, ah oui, mais c'est Cristiano Ronaldo, donc là vous faites du bashing. Non, c'est pas du tout du bashing, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle de la lucidité. Et malheureusement, on sait que ces champions-là en manquent souvent en fin de carrière, et c'est pas grave. Ça fait partie de leur personnage, ça fait partie de leur personne ou de leur caractéristiques. Mais aujourd'hui, on peut parler de Martinez. Mais bon, Martinez, comme a dit Jonathan, je pense que c'est juste, c'est pas facile pour lui non plus d'arriver, de ne pas sélectionner Ronaldo à partir du moment où il dit qu'il voulait être là. Maintenant, je pense que ça aurait été la meilleure solution.
Mais est-ce qu'il y a un coach, tu penses vraiment qu'il y a un mec qui arriverait, qui prendrait tête de la sélection et qui mettrait Ronaldo Zidane sur le côté? Ouais. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible?
Pour moi, il y en avait qu'un qui l'avait fait d'ailleurs en club, c'est le premier.
Mais moi,
mon fantasme absolu, c'était lui, pour plein de raisons. Mais pour moi, c'est le seul
qui pouvait gérer Ronaldo. Moi, je pense que si, et je suis pas son plus grand fan, Hein, loin de là, parce que on l'a énormément critiqué ici. Mais je pense que si Fernando Santos continue, il ne l'appelle plus Ronaldo.
Oui, mais alors là, mon gars.
Non, mais je dis pas qu'il fallait continuer avec Fernando Santos. Je réponds juste à ta question par rapport à ce qui s'est passé à la Coupe du Monde.
Ça, je te rejoins, mais moi, je te dis, est-ce qu'un mec qui, parce que Santos, c'était fini. Un nouvel arrivant, n'importe qui, est-ce qu'il aurait été capable de dire non à Ronaldo sur le premier
rassemblement? Après, il y a la fédération aussi qui doit l'accompagner.
Moi, je pense pas.
La fédération doit dire.
Mais tu sais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au final, tout le monde dit, c'était fini pour Santos. Alors, il y avait les résultats, il y avait le contenu du jeu, surtout qui était pas bon. Même si dans les qualifs, on avait eu des phases qui étaient un peu plus positives. Mais aujourd'hui, on peut même en être à se demander, on aura à se demander si Ronaldo peut être le renouveau du Portugal, si le départ de Santos a pas été aussi précipité parce qu'il s'est passé avec Ronaldo.
Ça on sait pas, on le saura jamais, mais en tout cas,
mais
sur le côté nouveau sélectionneur qui arrive, bien évidemment que c'est difficile, mais après, à un moment donné, c'est aussi ça le poste.
Sélectionner.
Faire
une des chances, c'est-à-dire choisir les joueurs qui vont vivre le mieux ensemble,
Kevin,
pendant un rassemblement de 10 jours, pendant une compétition.
Moi, je pense que si tu le fais pas maintenant, tu le fais jamais.
Je sais pas.
La fenêtre de tir pour Roberto Martinez.
Et c'était par contre aussi arrivé dans la sélection du Portugal par la grande porte.
Oui.
C'est-à-dire en disant voilà, j'arrive, je sais que c'est pas facile, mais il fallait le faire, je l'ai fait.
Il y a des supporters portugais lucides quand même, Nico. Qui aurait quand même acquiescé.
Nico nous a donné les sondages.
Ah, voilà.
Le sondage est majoritairement en faveur de Cristiano Ronaldo.
Ou sinon, tu viens en conférence de presse et tu dis les copains, voilà, moi je prends Ronaldo, mais par contre, on a convenu avec Cristiano que c'était le dernier rassemblement.
Mais dire ça vu que Cristiano voudrait pas.
Exactement.
C'est tout ce dont on vient de parler.
Voilà. Roberto Martinez, il nous reste 2 minutes juste avant de parler de l'équipe de France et de la première conf de Kylian Mbappé. Je suis en train de voir les images là. Il y a eu l'hymne national. Hier, il y a une question qui a été posée à Martinez qui est un communicant, mais hors pair. C'est un séducteur, ce que vous voulez. Hier, la question lui a été posée, est-ce que vous allez apprendre l'hymne national? Il est en train de le chanter, là, avec Ricardo Carvalho à côté de lui, etc.
Mais ça, c'est très bien, les chants, etc. C'est symbolique, mais Roberto Martinez.
Juste le sondage.
Vas-y pour le sondage.
Juste pour le sondage. Roberto Martinez est-il un bon choix pour le poste de sélectionneur du Portugal? 24% de oui, 29% de non. 47% de ne savent pas.
Ah mais moi je suis
c'est
sceptique.
C'est le tout total.
Ah mais moi je suis sceptique, mais... parce que Roberto Martinez, on parle depuis tout à l'heure des choix.
Et les gars, on va aller voir Pierre Thévenet.
Ouais. Ah d'accord.
Et oui, le Portugal qui a ouvert le score à la 7e minute. Et non, c'est Cancelo. C'est Cancelo qui marque après un corner portugais frappé par Guerreiro. Le ballon très mal dégagé. Cancelo à l'entrée de la surface qui envoie une reprise de volée à ras de terre, déviée d'abord par un défenseur, puis par Ronaldo, puis par le gardien. Donc le but va peut-être être accordé à Cristiano Ronaldo. Ça serait pas le plus de sa carrière, mais en tout cas il touche le ballon juste avant le gardien et donc il va peut-être lui être accordé
dans la réponse de génération after.
Les Portugais qui faisaient vraiment le siège du but du Liechtenstein depuis le début du match, et donc c'est Cancelo, je pense, qui ouvre le score à la 7e minute. À voir, je vous redirai s'il a été accordé à Cristiano ou pas.
Et 10 minutes de jeu entre l'Italie et l'Angleterre, toujours 0-0.
Je voudrais juste que je donne un élément de contexte avant qu'Walid intervienne. On est d'accord. Merci que le fait qu'un sélectionneur qui n'est pas portugais soit prenne la tête de la sélection, ça a été mal vécu, mal vu ou pas?
Par
l'opinion.
C'est très rare.
Il y a
mais
pas
non,
une sorte de mini xénophobie.
La corporation a dit on a les meilleurs entraîneurs du monde.
Ah,
pourquoi?
Oui.
Notamment le syndicat des entraîneurs. Après, beaucoup d'entraîneurs, même portugais, ont dit la compétence n'a pas de nationalité. Okay. On peut
mais
pas nous se targuer
l'opinion
portugais d'avoir des entraîneurs. Mais il y a pas d'opinion en fait là-dessus. Il y a pas eu de sondage. Il y a pas eu de.
Mais la vibration.
Des depuis non, il y a pas eu de sondage.
Non, pas sur cette question-là.
D'accord,
mais la vibration que je peux ressentir sur place auprès
des... Non, franchement, non, je trouve pas que le critère nation...
Bon, okay. T'as pas joué sur le sondage?
Non.
Bon, en tout cas, j'ai trouvé ce choix.
Enfin, peut-être pour certains, si
j'ai trouvé ce choix surprenant. Déjà Martinez qui, après la Belgique, repart... très rapidement dans un nouveau challenge, dans un challenge qui est excitant, mais dans un challenge qui est dans un défi qui est aussi important pour lui, parce que il y a une grosse exigence envers le Portugal. Et moi, pour terminer, Nico, je suis sceptique parce que les 3-4 dernières années les 3 dernières années de Roberto Martinez avec la Belgique, c'est pas ça. Aller demander aux supporters belges, Roberto Martinez, c'était très compliqué. Oui, ok, d'accord, mais c'était compliqué.
On poursuit dans un instant, supporters des Bleus, on vous attend en équipe de France. Qu'avez-vous pensé de la conférence de presse de Kylian Mbappé, sa première en tant que capitaine? Avez-vous été séduit, agacé, inquiété? On vous attend avec Walid Acharchour, avec Kevin Diaz, avec Jonathan McCarty. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
RMC.
C'est une équipe qui reprend, qui affronte des équipes qui, elles, sont déjà sur le pied de grue.
C'est pas reproduisable parce que tu as l'arme Kylian Mbappé dans ton équipe.
Le football, c'est quand même, il y a cette fameuse phrase, là je l'ai pas en tête, mais...
20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Kevin Diaz, Jonathan McCarty, Walid Acharchour, je vous rappelle qu'aujourd'hui débutent les éliminatoires pour l'Euro 2024 avec notamment une très belle affiche entre l'Italie et l'Angleterre. On suit ça avec Pierre Thévenet. Et Pierre, il y a déjà un premier but dans ce match.
Et oui, 17e minute de jeu et c'est les Anglais qui ont ouvert le score en Italie à la 12e minute. Un but de Declan Rice après un corner très mal défendu par les Italiens. Harry Kane tout seul au second poteau voit sa frappe contrée et derrière Declan Rice peut reprendre tranquillement et ouvrir le score. 18e minute de jeu, 1-0 pour l'Angleterre. Sur l'autre pelouse, le Portugal mène toujours 1-0 face au Liechtenstein.
Alors, le
but est toujours pour Cancelo. Le petit coup de talon de Cristiano Ronaldo n'a pas suffi pour l'instant à lui donner le but.
Et Pierre, on a un œil là sur ce Italie-Angleterre. Ils se font manger, les Italiens.
Ils se font manger. Ils ont fait 5 très bonnes premières minutes, les Italiens, où ils ont dominé. Et depuis, les Anglais, dans l'impact, sont en train de totalement manger les Italiens, notamment au milieu de terrain. Et donc, pour l'instant, oui, c'est très compliqué. Les Italiens qui n'arrivent plus à sortir et qui sont menés 1-0.
Merci beaucoup, Pierre.
En termes de milieu de terrain cramé.
Italie.
Jorginho Verratti, pour moi, c'est le passé. Hein.
Supporter des Bleus, on vous attend au 32-16, hein, supporter de l'équipe de France. Demain, 20h45, ce sont les éliminatoires pour les Bleus qui vont débuter. Match face aux Pays-Bas, on suivra ça sur RMC. On a beaucoup débattu ces derniers jours sur le capitanat de l'équipe de France. Didier Deschamps a confié le brassard à Kylian Mbappé, comme vous le savez, qui, comme le veut la tradition, a fait la conférence de presse d'avant-match du premier match. Il était là, Kylian Mbappé. Tiens, première question posée à Mbappé, c'est quoi un bon capitaine ?
Un bon capitaine, c'est quelqu'un qui est avant tout tourné vers l'équipe, quelqu'un qui est capable d'être rassembleur, fédérateur et qui est capable d'emmener les autres dans son sillage.
Voilà, c'était les premiers mots de Kylian Mbappé pour la postérité en tant que capitaine de l'équipe de France. On vous pose cette question, vous a-t-il séduit, agacé, inquiété? On veut votre avis au 32-16. Juste avant de vous écouter, on a pas mal de petits extraits que Nicolas Dru nous a préparé, notre producteur. Là, c'était simple, soft, plus croustillant. Mbappé capitaine, Griezmann vice-capitaine. Comment Griezmann a réagi? Vous savez que Deschamps ne répond pas vraiment à cette question. Il a été cuisiné encore aujourd'hui après la conf de Kylian Mbappé. Voilà ce que révèle Kylian Mbappé.
Ouais, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était déçu et franchement, tout honnêtement, c'est compréhensible. Je lui ai dit qu'à sa place, j'aurais peut-être la même réaction. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France. Ça a été un joueur plus qu'important, peut-être l'un ou le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps. Ce que je lui ai dit, c'est que lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que je n'ai pas. Il est arrivé en équipe de France avant moi. J'étais au centre de formation, il était déjà là. Et bien sûr qu'on va être lui et moi main dans la main pour essayer de faire régner cette équipe de France au niveau européen et au niveau mondial. Donc il n'y aura pas de moi devant, lui derrière. On sera côte à côte s'il a quelque chose à dire devant le groupe. Même moi, je m'assois et j'écoute. Voilà, c'est comme ça.
Voilà, les mots de Kylian
Mbappé. Je l'ai trouvé exceptionnel cette déclaration. C'est une question de Fabrice Hawkins en conférence de presse. Et on sait très très bien qu'il était attendu sur ça. Hier et avant-hier, on en a beaucoup parlé sur le fait de pouvoir fédérer, sur le fait aussi de pouvoir comprendre la déception de Griezmann. Juste après, il dit aussi que s'il y a des autres joueurs de la nouvelle génération qui, dans un jour, décident de devenir des leaders ou de prendre la parole, il n'y aura aucun problème.
Il dit que la porte est ouverte.
La porte est ouverte parce que c'est pas l'équipe de France de Kylian Mbappé, en gros, et chacun peut amener sa pierre à l'édifice dans le vestiaire. Et je trouve que, voilà, le calme, le sang-froid, le fait de comprendre, d'avoir un peu d'empathie, même si ça reste peut-être que de la com, on verra ce qui va se passer sur les prochaines semaines, mais je l'ai trouvé très très fort sur cette réponse.
Il a été calme, mais moi, ça m'amuse qu'on ait ce débat, parce que vous savez tout ce que, je pense que je suis le seul autour de la table qui a déjà dit ouvertement qu'il n'était pas fan de Kylian Mbappé. Moi, c'est quelqu'un qui m'agace un petit peu. C'est pour ça que j'appelle le gilet jaune de Bondy. J'ai souvent trouvé ses prises de parole médiatiques et ses sorties médiatiques ridicules, notamment cette interview à New York l'été dernier. Mais là, je dois avouer qu'il m'a totalement bluffé. Je trouve qu'il a été d'une très grande mesure. Walid, comme tu dis, il a été très malin et diplomate avec Antoine Griezmann. Je trouve que c'est les qualités
après,
qu'on cherche chez un capitaine.
Quand on lit entre les lignes, alors on chipote. Enfin, déjà, il parle de Mbappé comme étant un grand joueur au passé. Ça a été un grand joueur de l'équipe de France.
De Griezmann.
Et puis, enfin, moi, quand je l'écoute dire ça, j'ai envie de dire, mais tous les arguments que tu balances, tu les légitime encore plus le fait que Griezmann devait être capitaine.
Bah non.
Juste pour terminer, moi là où j'ai le trouvé extrêmement malin, c'est que je pense que c'est de la diplomatie et qu'il veut vraiment avoir une sorte de, tu sais, de montrer son côté un petit peu magnanime, de dire ok, j'ai été capitaine, je sais que t'as été déçu, mais t'auras ton mot à dire. mais on sent bien que c'est lui qui va être le boss. Oui, et c'est ça que j'ai aimé dans son interview, c'est que certes, il est malin et il ouvre la porte aux autres, mais tu sens déjà qu'il a mis les pantoufles de président et que même, tu vois, par rapport à Didier Deschamps, qui nous disait pas grand chose au final, tu vois, c'est vrai, on se plaint souvent que Deschamps, c'est des robinets d'eau tiède. Là, j'ai l'impression que là, il y a un changement de, situation et que, c'est un risque et à la fois une chance pour Deschamps. Un risque parce que si Deschamps veut contrôler, cadenasser toute la communication de l'équipe de France, ça va être dur de le faire en sachant que Mbappé se représentera à chaque conférence de presse en tant que capitaine. Et que s'il y a quelque chose qui va pas, Mbappé ne se gênera pas.
Oui, mais il a montré sur cette conférence de presse qu'il pouvait aussi avoir du recul, de la lucidité.
Oui, mais il fera pas de
l'envie d'entendre Kevin.
Et
là-dessus.
juste pour finir, en une phrase, je pense aussi que ça peut permettre à Deschamps.
Tu dis rien.
Ça peut permettre à Deschamps de se reposer.
Ça coupe.
Tu vois, de se reposer et de décharger un peu sur Mbappé.
Et alors,
à chaque fois quelqu'un fait un tunnel,
il faudrait le faire ça. Ça coupe. Attends, je te rappelle.
Allô, attends. Kevin, je sais que t'es pas du tout d'accord avec tout ce qui est en train d'être dit, Kevin.
Non, je suis pas d'accord. Il y a une chose sur laquelle je suis d'accord et ça, je m'en réjouis, c'est qu'on va s'éclater avec Kylian Mbappé en conférence de presse parce que, comme a dit Walid, il est super intéressant à écouter, il s'exprime très bien. On voit que c'est quelqu'un de très intelligent. Maintenant, moi, je pense que il peut faire un bon capitaine, hein, bien sûr. Mais pour moi, le capitaine aurait dû être Antoine Griezmann. C'est Antoine Griezmann, comme l'a dit Kylian Mbappé, qui a 32 ans, qui a 10 ans d'équipe de France. Aujourd'hui, je vais te poser une question. Il y a un coup franc à la 92e. Qui tire?
Mbappé, capitaine ou pas capitaine?
Non, je suis pas sûr, moi.
Mais non, c'est jamais d'avis. Kylian Mbappé, c'est pas du tout un tireur de coup franc. Si Kylian Mbappé veut tirer.
Moi, je pense que
dans une équipe, non mais c'est un exemple un peu idiot comme ça que je prends.
Comme disait Jonathan, il est tellement diplomate qu'il est capable de se dire
pour les caméras,
voilà.
Non mais c'est pas ça. Mais là j'ai pris un exemple comme ça.
Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais.
Pour vous coincer, c'est un peu facile. Le penalty ça va être Mbappé. Oui. Il est plutôt bon tireur. Il a montré qu'il supportait la pression. C'est pas le souci. Mais je veux dire que aujourd'hui dans un vestiaire il y a quand même une forme de hiérarchie. Et pour moi, un capitaine, ça reste quelqu'un qui a plus d'expérience, surtout quand il y a quand même quelqu'un comme Antoine Griezmann. Moi, personnellement, je pensais que la carrière d'Antoine Griezmann, il y a encore quelques années, au moment de sa période Barça, elle tirait vraiment à sa fin. Mais aujourd'hui, force est de constater, et bravo à lui, j'ai aucun problème à le dire. Au contraire, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a réussi à se réinventer, il a réussi à retrouver des couleurs avec son club, avec son coach. Et ce qu'il a fait avec l'équipe de France à la Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Donc aujourd'hui, il y a un entraîneur, et ça Jérôme Rotten le dit souvent, et j'étais vraiment d'accord avec lui la semaine dernière, quand il disait que pour Didier Deschamps, le capitaine rêvé, c'est Antoine Griezmann. Mmh. C'est son fiston, c'est un gars qui est intelligent, qui sait s'exprimer, qui a les valeurs collectives, les mêmes que...
Qui sait s'exprimer, on est sûr de ça, Kev?
Oui, ça va.
Il a souvent été maladroit dans sa communication.
Non, mais il sait s'exprimer quand même.
C'est pas le plus éloquent.
Bah, ça va. Il marque un point, Jolan.
Quand t'as eu Golioris pour un, avec Didier Deschamps, il faut pas s'exprimer sur des sujets qui sont externes.
Il faut rester sur le foot.
Donc, je dis que pour Didier Deschamps, le capitaine idoine dans la sélection aujourd'hui, ça restait Antoine Griezmann. Mmh. Et quand on me dit, ah, mais Antoine Griezmann, il n'a pas à être déçu. Mais bien sûr que si, il a à être déçu.
Oui, bah, il l'a dit, Mbappé.
Et non, mais on a dit aussi, certains ont dit, ah, mais il n'a pas à être déçu, il monte son ego. C'est pas de l'ego.
C'est juste normal.
C'était logique, c'était bien le sûr. Capitaine Alors. Logique. Et je pense que même dans la réponse de Kylian Mbappé qui dit que lundi, il ne pensait pas être capitaine. Je pense parce que lui-même savait que ça devait être Antoine Griezmann. Maintenant, il est content de l'être et ça peut être
Kevin,
un très bon capitaine.
Mais Kevin, c'est des débats différents là.
Non, pas
du
tout.
Parce que
si c'est Mbappé, c'est pas Griezmann.
Parce que, là, que tu veuilles en tant que
Pour l'équipe, je finis par dire que pour l'équipe, je pense que oui, et il a été, et on va peut-être l'écouter, mais on lui a aussi posé cette question de savoir, est-ce que, au vu de sa personnalité, de la façon qu'il a d'être sur le terrain, est-ce que c'est le meilleur capitaine? Je suis pas sûr.
On va l'écouter dans un instant. On va être avec Alcine qui nous a appelé au 32-16. Venez réagir vous aussi à cette conférence de Kylian Mbappé. Je vous rappelle que ce soir, avec l'after, vous pouvez remporter deux places pour assister au match France-Pays-Bas demain. Vous envoyez euros au 7-32-16 pour remporter des places pour regarder, aller voir le match entre la France et le Pays-Bas demain au Stade de France. Un petit point sur les matchs qui se déroulent en ce moment avec Pierre Thévenet. Le match, notamment l'affiche entre l'Italie et l'Angleterre, premier match de qualif pour l'Euro 2024.
Ouais, 26e minute de jeu, toujours 1-0 pour l'Angleterre. Les Anglais qui sont passés tout proche du deuxième but avec Jude Bellingham qui était tout près de marquer. Jude Bellingham qui fait une première partie de mi-temps assez impressionnante. Physiquement au milieu de terrain, il fait tout avec le numéro 10 dans le dos en plus aujourd'hui. Et donc pour l'instant, il permet en tout cas à l'Angleterre avec le but de Declan Rice de mener 1-0 face à l'Italie. Et le Portugal de son côté mène toujours
1-0 également face à Liechtenstein à la 26e minute.
Qu'est-ce qu'on leur met au Liechtenstein? Tiens, sachez que tout à l'heure, le Kazakhstan qui menait 1-0 face à la Slovénie, eh bien, a perdu 2-1. Dans un instant, on sera avec Alcine qui nous a appelé au 32-16, avec Kevin Diaz, avec Jonathan McCarthy, avec Oleda Cherchour. On va revenir d'autres extraits, morceaux choisis de cette conférence de Kylian Mbappé, sa première en tant que capitaine de l'équipe de France à 24 heures de ce match face aux Pays-Bas. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Villas.
Avec Walid Acherchour, avec Kevin Diaz, avec Jonathan McCarthy, avec vous au 32-16, hashtag RMC Live bien entendu. Il y a les premiers matchs de qualification pour l'Euro 2024. Le Portugal mène toujours 1-0 face au Liechtenstein et l'Angleterre mène toujours 1-0 en Italie également. On va accueillir Alcin, on vous pose cette question. Est-ce que vous avez été inquiété, je sais pas, agacé, séduit, prenez l'adjectif que vous voulez, le qualificatif que vous voulez, par la première conférence de presse de Kylian Mbappé en tant que sélectionneur de l'équipe de France? Salut Alcin, je disais Alcin mais c'est Alcin visiblement.
Bonsoir messieurs.
Salut. On dit Alcin, c'est ça?
Oui, c'est Alcin. Pourtant messieurs, c'est la troisième fois que je passe avec vous.
Oui, mais c'était pas moi, je suis désolé.
Vous n'arrivez pas à prononcer mon prénom comme il se doit.
Alcin.
Ouais, je suis désolé Alcin.
C'est de quelle origine?
Alcin, c'est origine Congo.
Bah voilà, mais on est un peu raciste aussi.
Il a dit la dernière fois en plus.
Comment ça Nico?
Mais je déconne, il est
quoi? D'accord, OK, j'ai.
Ah ouais, d'accord. Alors dis-nous Alcin, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette conf de Kylian Mbappé, sa première en tant que capitaine de l'équipe de France?
La conférence de presse, elle est au modèle de ce qu'il est. C'est une masterclass. Le petit, c'est un génie. Il parle, il est structuré, intelligent. Il donne une conférence de presse, la première en tant que capitaine. À aucun moment, il se met en avant. Il met en avant ses partenaires. Il lance Griezmann. Il est dithyrambique envers Griezmann. Il rappelle que Griezmann, il joue en équipe de France. Il est en centre de formation. Il rappelle que Griezmann, c'est, quand même, il est pas capitaine, mais vice-capitaine, mais que c'est un des teneurs de l'équipe de France. Il dit aussi très bien que si demain il y a un joueur qui est en état de grâce ou qui a envie de prendre la parole ou autre, et ben on va l'écouter. L'équipe de France, ça lui appartient pas, elle appartient à personne. Mais le petit, c'est un génie.
Mais tu voulais qu'il y ait Mathieu. Mais bien sûr.
C'est un génie aussi en conférence de presse.
Attends, Kevin, deux secondes. Bien sûr, c'est un génie, mais ça on le sait.
T'auras le temps. De me reprendre, Kevin. Il est structuré, en fait. J'ai eu un débat il n'y a pas très longtemps avec Christophe Cissieux, s'il devait porter le brassard ou pas, et il était sceptique. Il disait que Mbappé, étant donné qu'il prend beaucoup la parole, peut-être qu'il va faire des gaffes. Et je lui rappelais que Mbappé, il était tellement intelligent qu'il ne fait pas de gaffes. Tout ce qu'il fait, le petit, il le fait bien. Je suis dithyrambique envers lui, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien.
Oui, alors attends, rappelle ton interview à New York, elle était ridicule cet été.
À New York. J'ai pas suivi l'interview à New York.
Quand il dit qu'il voulait être la voix de ceux qu'on n'entendait pas, qu'il voulait avoir un rôle social, ça va, c'était
après, une
coulante, non, mais c'était coulante démagogie.
Oui, d'accord,
mais pour de la part d'un mec qui a
passé
sa vie biberonné.
Pour une fois qu'il y a des prises de position,
un mec qui est biberonné dans un centre de formation, qui a une embrouille toujours, de vouloir être la voix de ceux qu'on n'entend pas.
Après, il a des racines.
Il manque un petit peu d'expérience.
Il a des racines, il a des attaches, Jonathan.
C'était démago, c'était Miss France qui disait je suis con de la fin dans le monde.
Non,
c'est ridicule.
Mais non.
C'est pas Kevin.
Attends, j'en ai des cases là.
Vas-y, Alcin.
Jonathan, ça après,
parce qu'il est riche, il a pas le droit d'avoir des combats.
C'est pas ce que j'ai dit, Walid.
Jonathan, comme toi, je suis pour l'Olympique de Marseille. Après, c'est un choix. Tu peux penser ce qu'il dit, démagogique ou non. Il y en a qui vont en tirer bonne leçon. C'est un footballeur qui s'engage, qui prend des positions. Il est capitaine depuis bien longtemps parce qu'il faut bien rappeler que c'est lui qui a mené le combat pour revaloriser un peu les contrats des joueurs en équipe de France. Il a montré que c'était un leader. Sur le terrain, il montre que c'est un leader.
C'est lui qui a fait virer Le Graët indirectement au final.
Il met un tweet exceptionnel où il encense une légende du football français, Zidane. Et aujourd'hui,
non, mais la question, Alcin, maintenant, si tu me permets de te répondre, c'est pas de savoir si c'est un phénomène. On sait tous que Kylian Mbappé, c'est un phénomène, que c'est un phénomène footballistique, que c'est un phénomène intellectuel en dehors du terrain, qu'il est capable de s'exprimer comme peu. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, ce que je dis, c'est que bien sûr, sa conférence de presse, elle est très bonne, mais que je pense que ce n'est pas lui faire un cadeau de le mettre capitaine maintenant.
Non.
Pour moi, il est encore jeune. Si, pour moi, il est encore jeune. Pour moi, il y a des joueurs qui pouvaient largement assumer cette tâche encore pendant 2 ou 3 ans, et lui, il aurait pu se concentrer sur le terrain. Moi, c'est mon avis.
Tu es en train de me convaincre et ça me fait penser à un parallèle qui va te plaire, Nico, ou pas. Ça me fait penser à l'enthousiasme qu'on avait tous eu en entendant les premières conférences de presse de Raymond Domenech quand il prend la tête de l'équipe de France. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tellement été habitués à des robinets d'eau tiède.
Excuse-moi, je l'ai regretté jusqu'à Mbappé.
Comment c'était?
Les dernières fois où on s'est éclaté en conférence de presse, c'était avec Raymond Domenech. Hein.
Laisse-moi finir mon parallèle.
Les dernières fois, on va pas s'éclater de la même manière, messieurs.
Ouais, non, mais au moins, t'avais du contenu. Quoi.
On a été tellement habitués à des robinets d'eau tiède, ce soit de la part du capitaine ou du sélectionneur, qu'il y a peut-être un effet de séduction un petit peu outre mesure par le fait qu'il a du culot. Mais Kevin, t'es en train de me convaincre. On va voir la suite de l'interview qui va être intéressante pour notre analyse. Mais peut-être, attention à ne pas juste être sur le charme parce qu'il est totalement différent des autres.
Vas-y, Alcin.
Pour moi, pourquoi c'est pas une erreur qu'il soit capitaine? Parce que monsieur, je veux vous rappeler que tous les meilleurs joueurs de leur sélection sont capitaines. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo a bien longtemps qu'il porte le brassard au Portugal. Messi, il est capitaine en Argentine. Lewandowski est capitaine en Pologne. Neymar, capitaine en Brésil. Tous les grands joueurs sont capitaines dans leur sélection, même dans leur club respectif.
Oui,
sont
capitaines. Alcin...
Benzema, il est capitaine au Real de Madrid. Mbappé, en plus, on sait que c'est un joueur, quand on lui donne des responsabilités, on le transcende. Il aime le challenge.
Neymar, il est capitaine en Brésil.
Avec le brassard, il sera encore beaucoup plus fort. Et en plus, pour Griezmann, bien sûr, c'est un excellent joueur.
Mais le brassard, c'est qu'un bout de tissu, les gars. Tu ne décrètes pas capitaine. C'est ce que j'essayais d'expliquer à Walid pour Marquinhos. C'est pas parce que tu es capitaine que tu es le leader sur le terrain. Et ça, Kylian Mbappé, il n'a pas besoin du brassard pour être le leader de l'équipe de France.
Zidane était capitaine, Platini était capitaine. Et Kevin, avant de conclure, on n'est même pas à l'abri
d'être capitaine.
On n'est pas à l'abri que dans deux ans, Kevin, avec notre formation française, comme je dis souvent, qui est assez exceptionnelle, qu'il n'y a pas un petit jeune qui arrive et qui tue tout et qui,
malheureusement,
on prépare l'avenir.
Alcin, tu me fais penser à ce que je voulais demander à mes camarades avant la pub. Est-ce que par rapport à ce que tu disais sur Antoine Griezmann, est-ce que tu es sûr que dans deux ans, Antoine Griezmann, il est toujours titulaire indiscutable de l'équipe de France?
C'est pas la question.
Si, parce que dans le choix du capitaine, je pense pas que Deschamps s'est posé cette question.
Et si t'empêches de faire l'inverse, de le mettre capitaine lui et vice-capitaine Mbappé, et comme ça, c'est Griezmann qui joue pas.
Mais t'as pas écouté ce que je viens de dire?
Non.
Je viens de dire, tu penses pas que dans la tête de Deschamps, il y a quand même la possibilité que dans deux ans à l'Euro, Griezmann ne soit plus dans son 11, et que du coup, c'est plus logique de choisir Mbappé.
C'est une possibilité, il a raison.
Non, moi, la partie de la conférence de presse que j'ai beaucoup aimée surtout, c'est quand il dit pourquoi Didier Deschamps, c'est la dernière question, pourquoi Didier Deschamps l'a mis comme capitaine. Et ça, je peux l'entendre. C'est-à-dire qu'il explique que c'est aussi pour faire un lien entre la nouvelle et l'ancienne génération. On va dire qu'il est au milieu, ça fait quelques temps qu'il est en équipe de France et il va pouvoir aussi accueillir peut-être de meilleure façon. Après, je ne sais pas quelles sont
Seul joueur qui est sûr d'être dans le 11 aussi en plus.
Oui, je pense qu'Antoine Griezmann, sur les deux prochaines années, sauf blessure, il est dans le 11.
Normalement. Surtout qu'il a été renforcé par rapport à la Coupe du Monde.
Je vais donner la parole, juste, je voulais remercier.
Je ne suis pas estimé dessus encore.
Alcin, merci d'avoir été avec nous.
Salut Alcin.
Merci, messieurs.
T'inquiète, nous aussi, on croit que c'est un phénomène, il n'y a pas de souci.
Ça a été très intéressant, Alcin.
Bisous, Alcin, à très vite. Ciao. Vas-y, Walid.
Moi, je disais tout à l'heure, en fait, que le débat sur qui doit être capitaine entre Griezmann et Mbappé, on l'a déjà fait il y a deux jours. Et moi, je suis plutôt d'accord avec Kevin. Sous le prisme de Didier Deschamps, par rapport à ce qu'il nous a montré pendant toute sa carrière, le choix Griezmann aurait été plus logique. Et Mbappé le reconnaît lui-même dans sa conférence de presse. Et c'est là où moi j'ai été quand même bluffé par ce qu'il a raconté par rapport à ce qu'il a dit. Maintenant, ça ne veut pas dire que Kylian Mbappé ne va pas pouvoir avoir cette âme de leader, naturel ou pas naturel. À un moment donné, il y a aussi beaucoup de capitaines qui se sont affirmés pendant leur carrière. Même si moi je comprends totalement ce que tu es en train de dire, Kevin. Là, le débat du soir, c'est de se dire, est-ce qu'avec cette conférence de presse,
mais c'est ce que vous avez pensé de la conférence,
voilà, il nous a séduit. Et moi, il m'a bluffé. Vraiment, je le dis, je suis pas le plus sympa avec Kylian Mbappé quand il faut le critiquer. J'étais l'un des seuls, notamment en septembre, après son histoire de prolongation Reims pivot gang, à énormément le critiquer. Mais là, dans sa communication et notamment sur cette première réponse de Fabrice Hawkins, où clairement tout le monde l'attendait au tournant là-dessus, comment il va essayer de parler de la déception de Griezmann, et ben moi j'ai trouvé que clairement dans son phrasé, dans son éloquence, dans son empathie, dans sa capacité à pouvoir fédérer.
Okay.
Je sais pas si ça va fonctionner, parce que comme l'a dit Jo, il va falloir être attentif sur la durée. Mais pour moi, il a réussi son examen aujourd'hui.
Alors, il y a une autre séquence également qui a été assez marquante au cours de cette conférence de presse. C'est un échange. Alors, on parlait de son engagement tout à l'heure, parfois sociétal ou politique, à Kylian Mbappé.
De Miss France.
Échange avec Jean-François Pérez, notre confrère d'Europe 1, qu'on embrasse, Jeff.
Vos prises de position sur les réseaux sociaux ou autres sur le racisme, sur la convention du droit à l'image, sur les propos de Noël Le Graët, sur Zidane notamment, évidemment ça a eu une énorme influence. Je voulais vous demander si maintenant que vous êtes capitaine de l'équipe de France, vous comptez, vous aurez la même liberté de parole que celle qui a été la vôtre jusqu'à présent. Merci.
Et moi je peux vous poser une question, pourquoi voulez-vous que ça change ?
Parce que le rôle de capitaine c'est aussi un peu celui de diplomate en équipe de France.
Qui l'a dit ?
La tradition, depuis que l'équipe de France existe, Hugo Lloris, qui a été un capitaine qui mettait quand même beaucoup les formes.
Oui, et comme j'ai dit avant, chacun est un capitaine en fonction de sa personnalité. Je ne suis pas comme Hugo, Hugo n'est pas comme moi, je ne suis pas comme les anciens capitaines. Chacun a été un capitaine différent, donc je serai un capitaine encore différent.
C'était une séquence assez forte quand même également, ouais, cette conférence, oui, de presse. Oui.
Je suis d'accord avec lui là-dessus.
Tu nous disais, on en parlait, que ça, toi, tu trouvais que c'était une erreur de, il avait fait des erreurs de com.
Non, c'est pas tant le truc, c'est plus le côté, tu vois, normalement, on est censé être un peu plus diplomate, et lui, finalement, te dit, bah non, je le serai pas forcément.
Il a raison sur un point, c'est sur le côté, en quoi un capitaine doit forcément être des robinets d'eau tiède, parce que diplomate, c'est ça que ça veut dire dans la bouche de Jean-François.
Le lisse.
Tu poses cette belle question, c'est voilà, exactement, c'est d'être lisse. Et, moi, je suis pas d'accord. Quand on a vu des capitaines dans l'histoire de l'équipe de France, est-ce que Platini, c'était un robinet d'eau tiède?
Non, pas du tout.
Voilà, pas du tout.
Et pourtant,
ça a été un des grands capitaines. Non, mais on va juste s'en revenir à l'équipe de France. Et pourtant, ça a été un des grands capitaine de l'équipe de France. Et je pense justement que sa manière, que je n'aime pas toujours, parce que je la trouve pas toujours utilisée à bon escient, mais sa manière de s'exprimer, que ce soit sur le cas de Noël Le Graët, que ce soit sur les droits à l'image, que ce soit sur divers sujets qui dépassent un petit peu le cadre du terrain, je trouve que ça donne du volume à sa dimension de capitaine.
Bien évidemment. Et ça donne du volume aussi aux joueurs Kylian Mbappé, qu'on le veuille ou non.
On va voir maintenant s'il va prendre ses responsabilités, parce que en fait, cette conférence de presse, et c'est pour ça que je dis qu'on va passer des bons moments avec lui, et ça j'en doute pas. Il y a eu aussi une autre question sur le fait de savoir est-ce qu'il allait un peu plus se défendre. Moi ça m'a vraiment plu.
Bah, c'est là où il dit en gros je fais ce que demandent mes entraîneurs. En gros, on ne demande pas de défendre, je ne défends pas.
D'accord, mais il y a des fois où ton équipe elle réclame un peu plus que ce qu'a demandé l'entraîneur. Donc on va voir si avec ce rôle de capitaine ça va peut-être
Kevin, on le critiquera si son comportement ne sera pas celui d'un capitaine sur le terrain, s'il ne fait pas les efforts que demande un capitaine notamment.
Tu sais que c'est quand même assez rare qu'un joueur soit capitaine en sélection alors qu'il ne l'est pas en club.
Lui-même l'a dit, je pense que sur ce rythme-là au PSG, il va vite l'être. Mais ça c'est un autre débat. Mais pour revenir sur ce qu'on disait sur la première réponse à Jeff Perez notamment, il reste dans sa nature. Il l'a dit il y a un an ou un an et demi, le football il a changé. Il veut changer le football. Il veut, voilà, s'il doit dire quelque chose, il le dira. Peut-être que ça créera des polémiques, peut-être qu'il fera des erreurs, mais il sera vrai. Maintenant,
peut-être qu'il va faire évoluer la fonction, le statut aussi.
Maintenant, encore une fois, c'est Didier Deschamps qui a nommé Kylian Mbappé. Quand ça se passera mal, il faudra critiquer Kylian Mbappé, mais il faudra aussi critiquer Didier Deschamps qui a fait ce virage-là. Mais moi, ça ne me dérange pas d'avoir un capitaine qui, encore une fois, a des prises de position et dit des choses.
Je voudrais qu'on écoute le dernier extrait que nous a préparé Nico également. Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, l'attaquant du PSG qui est souvent dépeint comme un joueur individualiste, voire égoïste. Est-ce qu'il comprend ces remarques?
Je ne comprends pas, mais j'accepte. Parce que aujourd'hui, c'est la vie d'un joueur de haut niveau qui est ultra médiatisé. Les gens jugent sans parfois être de l'intérieur et j'ai pas de problème avec ça. Je pense que les joueurs qui ont joué avec moi, qui ont toujours joué avec moi, savent que ma première obsession, c'est de gagner. Et je gagne pas tout seul, je gagne avec l'équipe.
Il s'en sort bien à chaque fois.
Mais voilà, on critiquera s'il faut critiquer, on donnera notre avis sur ce qu'il va nous expliquer en conférence de presse. Et je répète, sous le prisme Deschamps, on pensait tous, en tout cas moi je pensais, qu'il allait le donner à Griezmann. Aujourd'hui, Deschamps, en le donnant à Mbappé, il sait très bien ce qu'il va avoir.
Il y a un risque, bien sûr qu'il y a un risque.
Et le risque, pour moi, je vais faire le parallèle avec un autre capitaine qui a une histoire fracassante avec les Bleus, c'est Patrice Evra. Patrice Evra arrive et qui prend le brassard, tout le monde est heureux. Parce qu'encore une fois, il change un petit peu de tonalité par rapport à Thierry Henry. Il dit beaucoup de choses en conférence de presse, il prend son rôle très à cœur et ça l'a totalement fait exploser en plein vol. On ne se rappelle pas de tout ce qui s'est passé. Attention, et c'est là où je rejoins Kevin, n'oublions pas que Mbappé a 24 ans, qu'il est certes extrêmement mature pour son âge, mais qu'il n'est pas encore totalement fini.
On va voir, mais en tout cas aujourd'hui, moi il m'a bluffé.
On va aller voir Pierre Thévenet.
Il a passé le test au la main pour l'instant.
On va aller voir Pierre Thévenet.
Ça veut rien dire.
On va aller voir Pierre Thévenet parce qu'on est dans les dernières minutes de la première période du match entre l'Italie et l'Angleterre. L'Angleterre qui mène 1-0, Pierre. Et ont peut-être doublé la mise, les Anglais. Ouais, ils ont obtenu un pénalty à la 42e minute. Un pénalty, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais qui paraît assez généreux quand même. C'est sur un corner frappé au deuxième poteau.
Il y a quand même un. Il y a main quand même, Pierre.
Ouais, mais Harry Kane est dans le dos de Di Lorenzo qui ne voit pas et qui se fait taper la balle à 50 cm par une tête de Kane. En tout cas, il a le bras décollé du corps. L'arbitre est allé voir la VAR. Ça a duré un petit moment. Et finalement, il a accordé le pénalty. C'est mérité, en tout cas, sur l'ensemble de la première mi-temps, puisque les Italiens, à part 10 bonnes premières minutes, n'ont plus réussi à sortir. Aucune frappe cadrée pour les Italiens. Il y a eu deux très belles situations pour les Anglais avec Calvin Phillips, notamment de doubler la mise. Et donc là, c'est Harry Kane qui va se présenter face à Donnarumma. On sait que son dernier pénalty avait été manqué face à la France en quart de finale de la Coupe du Monde. Harry Kane face à Donnarumma, il a l'occasion de devenir le meilleur buteur de la sélection anglaise. Il s'élance, il frappe le contre-pied et parfait, Donnarumma est parti très tôt. Harry Kane qui devient le meilleur buteur de la sélection anglaise de l'histoire. 54e but pour Harry Kane, il dépasse Wayne Rooney qui était à 53. 2-0 pour l'Angleterre. Allez, dernière minute également du match entre le Portugal et Liechtenstein. Le Portugal mène toujours 1-0, le buteur c'est Cancelo. On revient dans un instant avec un avis tranché de Walid. Du temps à la charnière au Upamecano Konaté va nous expliquer, Walid. Oui.
Et Nico, il y a une grosse info là de Fabrizio Romano comme quoi
Nagelsmann va sauter, et que Tourelle pourrait le remplacer.
Ouais, incroyable, ça serait incroyable.
Nico Ledrun donnait l'info tout à l'heure.
Avant City, ça serait incroyable.
Ça serait fou.
Ouais.
Génération After revient dans un instant. Kevin Diaz, Jonathan McCardy, Walid Acharchour avec vous au 32-16 également. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Et Kevin Diaz, Jonathan McCardy avec Walid Acharchour également. On a fait un gros débat, un gros débrief sur la conf de presse de Kylian Mbappé. On vous posait la question si vous aviez aimé ou pas, votre avis au 32-16 avec nos trois membres de l'After, de la team. Il y a d'autres débats quand même autour de l'équipe de France. Outre le capitanat, il y a notamment les choix de Deschamps, à commencer par la défense. Que va-t-il faire en défense centrale? Il y a un avis tranché de Walid qui arrive.
Moi, quand je m'habille, quand je sortais, etc., je détestais mettre de l'argent dans des jeans. Je préférais mettre un beau t-shirt, une belle chemise, de l'argent dans des belles chaussures. Ouais. Tu partages ou pas, Nico? T'étais jean, toi?
Franchement,
tu pourrais claquer pour un jean?
Alors c'est un truc avec le temps. C'est un truc avec le temps où je me suis rendu compte que franchement avoir un bon jean c'était un peu.
Ouais. Franchement à la rigueur le t-shirt.
Tu mets plus sur un jean que sur une paire de chaussures ou sur.
Ah ouais, mais alors moi là-dessus je suis très. Moi si tu veux il y a des plafonds.
Ouais.
Où je me dis mais comment
ta gestion ton budget.
Non, c'est pas une question de gestion.
On s'en fout là.
Non, il y a pas de problème. Il est malade ou quoi? Tu t'es cru là? Excuse-nous, mais vas-y.
C'est Kevin qui a failli parler les rois de Champions League, c'est pas vous.
Mais va chez RFI.
C'est Kevin qui a failli parler les rois de Champions League. Quand il parle complètement pendant
le reste de
Kevin. Le mec, à chaque fois, il est chiant. Il est pas comme ça dans Fighter Club.
Dis le mec qui a une veste et un sac à dos suprême.
Dans Fighter Club, t'es pas comme ça dans Fighter Club.
Non, je te rends hommage. Je te dis, c'est toi qui a failli parler les rois de Champions
League. Je reviens aux choses importantes. En fait, moi, si tu veux, j'ai des blocage. Je ne comprends pas qu'on puisse mettre une certaine somme, par exemple, sur une paire de pompes. Ouais. Mais tout, globalement. Tu vois, une paire de pompes. En revanche, il y a des choses qui sont vraiment des investissements, je trouve. Un maillot de foot.
Ouais. Tu peux mettre de l'argent.
Mais parce que ça prend une valeur de fou avec le temps. Pas tous. Hein. Ah ouais, d'accord.
Ok, d'accord. Et toi, Kevin?
Non, moi, le jean, c'est important quand même.
Mais le jean, c'est important.
Ouais, okay. Jean, c'est important.
Mais la paire de chaussures, tu mets un peu plus que.
Ouais, mais pas trop non plus.
Pas trop, d'accord.
Ce qu'il faut, c'est juste arriver à se démarquer. Mais
et d'ailleurs, c'est pas bon forcément les bons jeans, c'est pas forcément les trucs un peu clichetons auxquels on croit.
Ouais, peut-être.
T'as des très grandes marques qui font des très bons jeans d'ailleurs. Non, mais c'est vrai.
Dayot Upamecano et Konaté.
De quoi tu parles, toi?
C'est mon avis tranché.
Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement. Il faut laisser du temps à la charnière au pas mécano connaître.
Je voulais juste dire, vous êtes aussi intéressé par Wayne parce que vous n'avez pas un corps de dieu grec comme moi, c'est ça qui vous empêche.
Ah ouais, d'accord.
Et oui, cette charnière qui va débuter, sauf catastrophe, demain soir contre les Pays-Bas. C'était mon avis du soir. Il faut donner du temps et de la continuité à cette charnière-là. On sait qu'il y a un vivier énorme dans ce secteur-là, avec même des joueurs qui ont remplacé Fofana et Saliba. On l'a bien vu avec Todibo, notamment récemment. Mais je pense que avec la La retraite de Raphaël Varane, ce qu'a montré Ibrahima Konaté dans cette Coupe du Monde. Au passage, j'ai vraiment bien aimé son interview sur Eurosport aujourd'hui, plein de convictions, plein de détermination.
Elle est géniale, il faut la lire.
Ouais, vraiment très intéressante. Je pense que cette charnière-là est complémentaire. Je pense que cette charnière-là apprend au très très haut niveau depuis un bon nombre d'années, que ce soit à Leipzig où ils ont joué ensemble, où ils ont eu cette complémentarité et ces automatismes très très jeunes, où ils ont pu faire des erreurs pour acquérir cette expérience, et surtout au contact de très très grands. On le voit avec Konaté l'année dernière avec Van Dijk. Et mon mot du soir, c'est mon message, c'est de se dire que peut-être que cette défense centrale ne sera pas parfaite tout de suite, qu'elle va peut-être faire des erreurs, mais je suis pas pour le changement constant, qu'à chaque fois on va se dire ouais mais attention Saliba c'est meilleur, attention mais un tel c'est meilleur. Je pense qu'il faut donner de la confiance de la part de Didier Deschamps.
C'est pas le style Deschamps de changer trop à charnière.
Oui, mais récemment on avait, avec les blessures etc, ouais, on avait pas mal de changements.
Mais il kiffait par exemple Koscielny Varane, c'était quasiment gravé dans le marbre pour lui.
Et puis surtout les défenseurs centraux, il y a souvent des hypes par rapport aux dynamiques. Ah là, il est très très bon à Milan. Ah, il est très très bon au Bayern. Il est très très bon à... Alors là, je vais pas faire tous les clubs, mais gardons cette ossature là parce que je pense que c'est vraiment une charnière qui est complémentaire et qui surtout est compétitive pour le très très haut niveau et pour le football moderne actuellement. Et j'ai envie de voir ça. Pour moi, Konaté a été le meilleur joueur contre le Maroc, notamment en demi-finale de Coupe du Monde. Upamecano a fait une très très grande Coupe du Monde. Il a fait un très très grand match contre Mbappé, notamment au match retour contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, je suis excité de voir cette défense centrale, et donnons-leur du temps et de la continuité.
Alors, quand tu parlais de Milan, d'ailleurs, ça me fait penser, on se demandait, il n'y a pas de latéral droit, bon, il faudrait peut-être regarder là-bas.
T'as Lulu ?
Ah bah oui.
Oui, mais il joue un peu plus
central. Ouais. Souvent dans une défense centrale, mais peut jouer latéral droit. Ouais.
Sur la défense centrale, moi je trouve pas qu'elle soit si complémentaire que ça. C'est quand même deux joueurs qui sont excellents, mais pour moi ça manque d'un premier relanceur. Et pour moi,
je pense que Mécano peut le faire. Il a vraiment cette capacité.
Je dis pas qu'il est pas bon. Hein. C'est un bon joueur, mais je préfère quand même la qualité de relance que montre William Saliba avec le style de jeu qui est proposé par Arsenal et par Arteta. Maintenant, si Didier Deschamps veut deux entre guillemets stoppers à l'ancienne, c'est-à-dire des défenseurs très solides, mais je pense que Saliba il est pas mal au duel. Ça peut bien sûr convenir, mais je préférerais quand même que ce soit un joueur comme Saliba qui ait sa chance, sachant que derrière il y a du Fofana, il y a du Todibo qui est aussi excellent. Donc franchement, il y a tellement de choix. Il faudra trouver la charnière qui est la plus complémentaire en fonction des matchs. Peut-être que si tu dois beaucoup défendre, en effet, les deux que tu as cités sont les meilleurs défenseurs. Mais je trouve qu'aujourd'hui, et tu sais qu'est-ce que je pense d'un défenseur central, il faut au moins un des deux qui soit aussi très à l'aise pour remonter les ballons.
Moi, je pense que la caricatural sur le coup, parce que
autant, je suis pas caricatural. Je dis que je trouve que Saliba est un meilleur relanceur que ces deux joueurs.
Mais je trouve par exemple que Upamecano a une relance qui est en progression constante. Je trouve qu'au niveau du jeu long,
j'ai pas dit qu'il avait les pieds carrés.
Moi, je pense qu'il a.
Konaté, regardez ses statistiques sur le jeu long. Moi, il est pas mauvais du tout.
Non, mais moi, j'aime bien les joueurs qui font progresser le ballon.
Je vais même aller plus loin que toi. Saliba a cette qualité-là, mais attention, je trouve que la qualité de relance d'Upamecano est très mésestimée. Sincèrement, non mais vraiment,
je parle aussi de pouvoir conduire le ballon, s'intégrer au milieu de terrain. Après, je ne sais pas si c'est ce que va demander Didier Deschamps, ses défenseurs.
Même la conduite de balle avec le Bayern notamment, Upamecano, il avait quelques sauts de concentration sur les dernières années.
Mais moi, Upamecano, Saliba, ça me va.
Non mais il est en train de régler ça, mais cette capacité,
j'aime bien aussi.
Cette capacité à pouvoir faire avancer le ballon notamment, il a de la personnalité, il a vraiment une qualité balle au pied, on est très très loin des stéréotypes,
il
a une vraie palette globale.
Derrière ton avis tranché, toi tu défends la charnière Upamecano Konaté, qui ont deux qu'on joue ensemble, il y a un peu aussi le jeu du vous êtes team Upamecano Konaté ou team Fofana Saliba, aussi jouent ensemble aussi.
Il y a une complémentarité entre les deux, déjà qu'ils fassent deux rassemblement Fofana,
okay.
Déjà qui enchaîne des matchs, c'est un joueur qui est très très bon, parce qu'il y en a qui diront Fofana Saliba, ils ont joué à Saint-Etienne ensemble, oui, notamment ils ont été formés et Upamecano Konaté
Todibo Saliba, ils ont joué aussi à Nice,
voilà, à Leipzig très très tôt, mais Fofana on va attendre. Vraiment, on va attendre. Là, il faut quand même miser sur la continuité d'une Coupe du Monde où il y a eu quand même des satisfactions.
Je suis d'accord avec Walid et ça me Je veux que ça soit installé sur la continuité parce que je suis partisan du fait qu'une charnière, ça ne bouge pas. C'est comme un gardien de but. Si t'as les deux qui sont disponibles, peu importe le match, il faut développer les automatismes, il faut développer la complémentarité et la manière de défendre d'une équipe. Et je le dis, sachant que mon opinion a toujours été que le meilleur défenseur central français était Lucas Hernandez.
Ouais, mais il n'existe plus
maintenant. J'en ai fait mon deuil parce que Lucas a une qualité que j'aime particulièrement, c'est-à-dire que c'est une garce. Mmh. Et je pense que dans les équipes, il faut toujours avoir une garce. D'ailleurs, c'est le
pas
thème
que,
de la prochaine
que,
mon prochain article dans la revue de l'After.
Pas que,
mais c'est important d'en avoir une. Mais ce que j'aime beaucoup chez les deux, c'est la marge de progression. Ils sont durs sur l'homme. Dans les duels, je les trouve très présents. Mais Walid l'a justement souligné. Et c'est pas que pour Upamecano. Konaté aussi. Mmh. Balle au pied. Je pense qu'il est capable de casser des lignes.
Les deux ont 23 ans. Il défendait sur les Lewandowski à 18 ans avec la
Ligue. Et par rapport à l'interview de Konaté qui était génial sur Eurosport.
Détermination.
Il dit quelque chose de très juste à la fin quand on dit oui, mais le manque d'expérience. Il dit, mais le manque d'expérience, c'est pas une question d'âge. C'est-à-dire que Upamecano, Dayo et moi, on a joué un nombre de matchs à très haut niveau et très haute intensité. On en a joué plein, donc l'expérience on l'a déjà.
Non, mais c'est une charnière. C'est une charnière qui de toute façon est très cohérente. Mais le vrai souci de toute façon, ça reste le poste d'arrière droit en effet.
Juste pour finir sur cette thématique. Juste pour finir sur cette thématique de la défense. Eduardo Camavinga s'est exprimé dans West France, autre interview également italien. Exactement, le joueur du Real qui a été convoqué comme latéral gauche par Didier Deschamps. Et il a déclaré en club, il a donc joué à ce poste-là. C'était pour dépanner et j'ai toujours répondu collectivement. Ce qui change, c'est la gestion de la profondeur. C'est une manière différente de défendre, en reculant comme dans la négociation des 1 contre 1, on appartient aussi à une ligne et on est davantage bridé, ce sont d'autres repères. Toi qui connais bien le poste, Kevin, est-ce que t'es, alors je dirais bluffé, choqué, agréablement surpris par Camavinga ce poste-là?
Non, moi, ce serait pas mon choix, non, pas du tout. C'est un joueur qui est milieu de terrain, qui a toujours joué milieu de terrain, bien sûr qu'il peut dépanner, comme il l'a dit et comme il l'a fait pendant la Coupe du Monde. Maintenant, t'es l'équipe de France quand même. T'es l'équipe de France, t'as pas d'arrière droit et t'as pas de deuxième arrière gauche.
Mais c'est pas
Camavinga. Il y a clairement, je pense, un problème avec
Fernand
Mendy.
Il est blessé. Enfin, là, il est revenu, mais il a fait une grande saison avec le Real Madrid. C'est pour ça qu'il a été remplacé par Camavinga.
Bah, d'autre manière.
Mais même quand il était très bon,
on a quand même la chance au poste de latéral gauche d'avoir un des meilleurs latérales gauche d'Europe. Maintenant, latéral droit, je le redis, son coéquipier à Milan, même si parfois il dépanne en défense centrale, mais ça peut être appréciable sur une compétition où la polyvalence est toujours un atout. Bon, pour moi, il doit être sélectionné.
Enfin, attention, Kalulu, il joue avec Mike Maignan, qui est maintenant le numéro 1 de l'équipe de France.
Mais ce qu'il joue avec Maignan, et les compensations sur les côtés,
il joue aussi avec Hernandez.
Avec Hernandez, c'est important.
Sachant que Hernandez, si, comme tu dis, il y a des compensations. Mais c'est vrai. Mais si Hernandez, c'est un joueur qui, de toute façon, il est plus offensif. Donc, si tu pars du principe qu'il faut 3 joueurs costauds, moi, ça me va. Dans ce cas, t'as Upamecano, Konaté, Koundé ou Kalulu à droite un jour, peut-être. Voilà, t'as 3 défenseurs centraux qui vont rester avec un rôle même plus libre pour Hernandez, ça peut être aussi très cohérent.
Mais pour rebondir sur ce que tu disais sur Camavinga, il a bien dépanné quand Fernand Mendy a été blessé ou pas bon avec le Real Madrid, mais sur sa dynamique avec le Real Madrid, là où il a sorti les meilleurs matchs, c'est au milieu de terrain. Et ce qui est dérangeant, surtout, c'est que Deschamps te dit en conférence de presse, donc sur la première conférence de presse, que c'est le numéro 2 au poste de latéral gauche, alors que pour moi, et on pourra en faire sur les prochains jours, au milieu de terrain, moi je trouve qu'il y a encore un chantier pour l'équipe de France, et Camavinga est l'un des joueurs les plus en forme et il est titulaire au Real Madrid quand même.
Non mais le milieu de terrain, tu me permets de le dire, parce que j'ai pas eu le temps de le dire, c'est que Valentin Rongier ne soit pas convoqué.
C'est autre chose, mais en tout cas Camavinga, ne pas le voir au milieu de terrain alors qu'il pourrait apporter dans un secteur où je trouve qu'on n'a pas d'énormes garanties, ça c'est quand même un camouflet.
Allez, je vous rappelle que c'est la mi-temps sur les premières affiches de match de qualif pour l'Euro 2024. C'est la mi-temps, L'Angleterre mène 2-0 en Italie, le Portugal mène 1-0 face au Liechtenstein. Il y a d'autres petits résultats marrants. L'Irlande du Nord mène 1-0 à Saint-Marin, 0-0 entre la Slovaquie et le Luxembourg. Le Danemark mène 1-0 face à la Finlande et la Bosnie-Herzégovine mène 2-0 face à l'Islande. Tout à l'heure, la Slovénie a gagné 2-1 au Kazakhstan. Dans un instant, on sera avec Georges Quirino qui est au Monumental. C'est la rentrée pour les Argentins également, les champions du monde qui affrontent le Panama en amical. Grosse ambiance. On va vivre ça avec Georges juste après ça sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Walid Acharchour, avec Jonathan Macardy, avec Kevin Diaz. Je viens d'entendre un truc là.
Répète ce que tu viens de dire, s'il te plaît.
Pas du tout.
C'est Paolo Pento, tu voulais dire, c'est ça?
Pas du tout.
Bien sûr, pas du tout.
Et il se passe en coulisses, reste en coulisses.
Mais si on va voyager dans les vestiaires. Et tu vas kiffer où on va aller là, Jonathan. Ce soir, à 00h30, c'est le grand retour sur le terrain des champions du monde, les Argentins qui affrontent le Panama en amical. Ça se passe au Monumental, à Buenos Aires, où est Georges Quirino Chavez, qui est au Monumental. Salut Georges.
Salut les amis, bonsoir à tous.
Hola Chico.
Alors question bête, mais on veut vivre un peu ça avec toi. Elle est comment l'ambiance à Buenos Aires en Argentine à l'approche de ce match et surtout au Monumental?
Ouais, non, c'est la folie. En plus, tu sais Nico, ce stade Monumental, le stade de River Plate, c'est le plus grand d'Argentine. Et il est encore plus Monumental depuis quelques temps parce qu'ils ont enlevé la piste d'athlétisme qui séparait les tribunes du terrain. Et donc maintenant, il y a des tribunes qui sont très proches de la pelouse. Donc on arrive à un total de 84 000 spectateurs, ce qui fait que ce stade, il est encore plus impressionnant. Et là, les scènes devant moi, je te les décris, c'est une marée humaine, bleu ciel et blanche, avec des maillots de Messi, avec des maillots de la sélection, des maillots d'Emiliano Martinez, le gardien de but qui est très apprécié. Donc voilà, c'est un match très attendu ici depuis l'arrivée lundi. Des Argentins, c'est la folie, c'est-à-dire que devant leur centre d'entraînement en banlieue de Buenos Aires, il y a des centaines de personnes qui tous les jours attendent. Donc vous entendez les supporters derrière qui ont entendu que je suis français, et forcément quand on est ici c'est pas facile. Mais
quand ils t'insultent, ils font quoi?
Voilà, en tout cas non, mais en gros ils aiment bien dire ici les Argentins. À chaque fois qu'ils voient un français, ils disent Francia segundo, français deuxième.
Excellent.
Voilà, donc voilà, c'est un match genre, Nico, il y a eu plus d'un million et demi de demandes de billets.
Ce que la France veut savoir, c'est aussi, c'est quoi la chanson là maintenant là?
Non, ça reste Muchachos, Kevin. Ah ouais. Ils ne se sont pas fatigués, Muchachos. Ahora nos volvimos a ilusionar. On l'a beaucoup entendu ici. Je vous disais plus d'un million et demi de demandes de billets. Ils sont 80 000 finalement. Plus de 140 000 demandes d'accréditation. J'en ai une, je suis pas mécontent. Et toute la journée, toute la semaine, ça a été la grande incertitude sur comment est-ce qu'ils vont réussir à arriver au stade, les joueurs. Parce que vous vous rappelez qu'il y a 3 mois, ils n'avaient pas pu rejoindre le centre de Buenos Aires parce qu'il y avait 5 millions de personnes pour le retour des héros. Ils n'avaient pas pu présenter le trophée devant l'obélisque. Voilà. En fait, pour venir aujourd'hui, ils ont pris des vannes blancs très discrets et ils ont rejoint comme ça le Monumental en toute discrétion. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés en début d'après-midi quand même, hein, pour un show qui va durer 8 heures entre l'ouverture du Monumental jusqu'à ce soir.
Alors là, star de cette sélection, c'est bien sûr Lionel Messi. On a vu des images d'émeutes lorsqu'il allait manger au restaurant il y a quelques jours en Argentine. Genre, il y a quand même un sacré décalage entre ce qu'il suscite ici et en Argentine, Lionel Messi. Comment s'est vécu ça, justement, les critiques dont il est la cible à Paris, en France, par exemple?
Les Argentins, ils le soulignent ça aussi, hein, que justement le match face à Rennes au Parc des Princes, ils l'ont tous vu sortir la tête baissée tout seul. Ils ont entendu les sifflets avant le début du match, ça n'a pas plu ici. Et l'idée, c'était même avant qu'il vienne, c'était ici, il faut qu'il vienne pour être heureux. Et c'est vrai qu'ici, depuis qu'il vient, depuis qu'il a gagné la Copa América, il est fou de joie, Lionel Messi. Forcément, la première fois qu'il revient en Argentine pour jouer un match en tant que champion du monde, il vient en profiter. Tu l'as décrit, cette scène dans un restaurant très connu de viande, le meilleur de Buenos Aires. Il y a eu des centaines de personnes dès que tout le monde a su qu'il était là. Il aurait pu rester à l'intérieur, Nico, et sortir par une porte dérobée. Messi a décidé de sortir par la porte de devant, tout sourire, saluer tout le monde, tout simplement parce qu'en fait, il kiffe cet instant. Un champion du monde 86 me disait hier, il est en train de vivre ces instants maradoniens, Messi, finalement, ici en Argentine, ces instants de popularité. On l'a vu, il est même poursuivi sur l'autoroute quand il est en voiture, parce que les joueurs peuvent sortir le soir. C'est un rassemblement un peu Club Med, hein. C'est un prétexte, ce match contre le Panama, pour faire la fête. Et voilà, donc c'est un environnement comme ça de fête. Et écoutez, Lionel Scaloni, le sélectionneur qu'on a rencontré en conférence de presse il y a 2 jours, nous parlait justement de cette ambiance et de tout ce qui se passe autour de Messi.
Je ressens une très grande joie parce que les gens sont contents. Ils nous voient comme des héros, je pense. C'est un bonheur qui dure, donc ça nous rend heureux. Ce qu'il se passe autour de Léo est vraiment magnifique. Il mérite tout cet amour. Même le meilleur du monde a besoin de se sentir aimé par les siens. Tout ce qui se passe quand il vient ici est génial. Il vit des moments dont il va se souvenir toute sa vie.
Voilà, Scaloni, hein, le sélectionneur de l'Argentine qui s'exprimait sur Lionel Messi en conférence de presse. Walid, qu'est-ce que t'en penses, toi, du... Je sais que tout à l'heure, tu faisais un petit parallèle entre le cas Messi et Ronaldo, justement, et leur place en sélection.
Non, mais le retour du héros après la Coupe du Monde, on va suivre ça. Ça aurait été intéressant parce qu'il y avait des discussions pour un Argentine-Maroc au début. Ça fera Argentine-Panama malheureusement, mais j'aurais bien aimé voir ça. Ils ne sont pas mis d'accord parce que le Maroc ne voulait pas aller en Argentine,
le Brésil,
notamment. Là, ils vont jouer le Brésil à la maison. Mais pour revenir sur, euh, sur Lionel Messi, voilà, ça va être une grande fête. Maintenant, on parle de Lionel Messi à la Copa América. On va voir si on va voir s'il va être au niveau. Mais comme Ronaldo, moi, j'aurais bien aimé que Messi arrête après la Coupe du Monde, parce que la boucle est bouclée et parce que pour moi, il ira pas plus haut.
Alors Georges, il faisait référence à la Copa América, Walid. D'ailleurs, c'est un peu compliqué, hein, la prochaine.
Quito, non ?
Bah, ça devait être en Équateur. Finalement, ça peut se jouer aux États-Unis ou au Mexique, qui veulent préparer leur Coupe du Monde. C'est un peu confus tout ça, parce que là, il y a deux amicaux pour l'Argentine. Après, les prochaines vraies entre guillemets échéances, c'est les qualifs pour la Coupe du Monde, c'est ça ?
Exactement, ouais. Là, mardi, il joue contre Curaçao, Santiago del Estero, dans le centre du pays, justement, pour que le pays au-delà de Buenos Aires puisse profiter des champions du monde. Et après, oui, le prochain rendez-vous, a priori, ce sera en septembre pour le début des éliminatoires, sera face à la Coupe du Monde 2026. Ce sera
c'est dommage
Venezuela,
de ne pas avoir une affiche un peu plus belle, non ?
Ouais, mais après, c'est ce que tu disais un peu, Walid, hein. Il n'y a pas beaucoup de nations qui voulaient venir, je pense, jusqu'ici. Ça a été compliqué. C'est pour ça que c'est deux nations d'Amérique centrale et des Caraïbes qui se sont proposées. Tu sais, normalement, sur ces dates-là, il n'y a pas de match en Amérique du Sud. Justement, les sélections sud-américaines, elles vont justement jouer en Europe ou peut-être au Moyen-Orient quand c'est un peu plus proche.
Ouais,
et là, c'est un peu exceptionnel, finalement. Voilà, exactement. C'est un peu exceptionnel qu'ils rentrent en Amérique du Sud, qu'ils rentrent en Argentine pour faire ce match-là et pour en profiter. Mais oui, voilà, donc ça va aller très vite par les qualifs de la Coupe du Monde en septembre. Scaloni, il a dit les joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde ne partent pas avec un avantage, donc on peut le croire quand on voit ce qu'il a fait à la Coupe du Monde et qu'il a fait des changements. Il n'a pas hésité à sortir des titulaires pour dire que les petits nouveaux qui vont arriver, peut-être qu'ils auront leur chance également, et il compte sur Messi, hein. Voilà, il a dit avant-hier que lui, juste à ce que Messi lui dit qu'il veut venir, il appellera, et le jour où il dira qu'il ne veut plus venir, il appellera pour lui dire viens quand même.
Aux
États-Unis, Copa América, je pense que c'est sûr, l'année prochaine aux États-Unis en plus.
Il est réel,
sachant que Di Maria qui avait dit qu'il allait arrêter. Voilà, Di Maria avait dit qu'il allait arrêter, lui aussi veut aller jusqu'à la Copa América. Et après, une fois qu'ils auront fait la Copa América, s'ils la gagnent aux États-Unis, ils vont se dire peut-être il reste 2 ans et on revient ici. Donc ça va être au jour le jour, ça va dépendre un peu du niveau de Messi, s'il reste en Europe, s'il part
c'est loin quand même, hein.
Dans un autre continent. C'est loin, mais ils ont l'espoir et ils ont l'envie et l'ambition de continuer visiblement sur cette route-là avec Messi. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer.
Georges, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Georges, bon match à toi, Monumental. Grosse ambiance à venir pour ce match amical face au Panama.
Ouais. Ça va être le feu et je pense que si vous voulez pas veiller tard, juste vous mettre une petite alerte aux alentours de 2h, 2h30, 3h du matin. Messi va lever la Coupe du Monde au milieu de l'estadio Monumental et je pense que ça va être complètement fou.
Et tout sera
sûr. Ça va exploser. Et on espère que le match ira au bout. Voilà. Il ne va pas y avoir de débordement d'émotion comme on l'a vu jusqu'à maintenant des supporters argentins.
Merci Georges. Bonne soirée à toi, Georges. Bon match,
Georges.
Merci. Et tout ça sera bien sûr sur
RMC Sport. On verra peut-être les petits jeunes, la Garnacho, Bonanoté, que doit connaître, qui joue en PL. C'est marrant.
Garnacho qui est très intéressant avec United.
Ouais. Tiens, un petit détour par Lisbonne, Pierre Thévenet, ça bouge entre le Portugal et Liechtenstein.
Et oui, le Portugal qui a doublé la mise, 2-0 pour les Portugais, but de Bernardo Silva au retour des vestiaires. Un
fort,
bon mouvement sur le côté droit, Cancelo qui centre en retrait et pénalty à l'instant pour le Portugal qui vont avoir l'occasion de tripler la mise. C'est à nouveau Cancelo qui est très actif sur son côté droit, le latéral qui a été fauché par un défenseur du Liechtenstein.
C'est pour Cristiano, ça, non ?
Et ça va sans doute être pour Cristiano, il est toujours sur le terrain.
D'accord.
Donc on va voir qu'il prend. Dans l'autre rencontre, toujours 2-0 pour l'Angleterre face aux Italiens qui n'arrivent toujours pas à réagir.
Merci beaucoup Pierre, tu restes avec nous.
Bien sûr.
Comment ?
C'est de la stat en plus. Hein.
Oui. Merci beaucoup Walid Acharchour, merci Jonathan Nico. Maccardi, merci Kevin Diaz. L'after qui se poursuit dans un instant. Nico Jamin prend la main. On vous attend au 32-16, bien entendu. Ça va parler là aussi équipe de France, bien sûr. Ça va continuer de parler notamment de cette conf de presse de Kylian Mbappé, entre autres, pas seulement. À tout de suite pour l'after.
RMC, l'after foot.